Bonjour, je suis Steve.
Et je suis Monsieur Nebunny.
Et vous écoutez Comic City. Joyeux. 39e épisode du podcast des reviews françaises. Première partie des reviews du mois de septembre 2010.
Voilà.
Ah, on sait jamais. Si quelqu'un réécoute l'émission d'ici 10 ans, il sera bien content de savoir quelle est l'année.
Oui, bah, de toute façon, dans 10 ans, on sera encore là, à mon avis. Vu déjà le mal qu'on a aujourd'hui à enregistrer. La motivation règne.
On est tous les deux dans un état pathétique, c'est ridicule.
C'est de mieux en mieux. Je pense que on s'inflige de plus en plus de... Sinon, c'est pas drôle. On s'inflige de plus en plus de... Comment on appelle ça de...
Des handicaps. De... Un peu comme au golf, tu sais, voilà.
Des points de pénalité pour... Sinon, c'est trop simple. Faire un podcast, bientôt, on le fera avec un chewing-gum dans la bouche, des marshmallows.
Enfin, ouais, les mains attachées dans le dos, un bandeau sur les yeux, et hop.
Oui, voilà.
Bien, on va attaquer cette quinzaine par, comme d'habitude, des news. Et pas mal de news du côté de chez Panini, qui nous annonce un petit peu son programme pour 2011, et pas mal de changements à venir. Et, je vais te laisser résumer un petit peu tout ça.
Ah ben merci. Donc alors, donc la news du jour, c'est que Panini remet les compteurs à zéro avec un relaunch général de ses titres pour 2011. Alors, pas vraiment de tous les titres, enfin, pour le moment en tout cas, c'est pas dit qu'ils vont tout relauncher en 2011. Mais une certaine partie de la gamme kiosque, donc on aura par exemple Marvel Icons qui va repartir au numéro 1 dès février, puisqu'au fait février c'est Angoulême, donc qui dit février dit Angoulême, dit Variant Cover, et ben là dit grosse opération de...
Pas mal de ventes, grosse exposition...
Oui. Et du coup, donc là, gros relaunch du coup pour marquer le coup, Heroic Age va débarquer en français à ce moment-là. Et bien donc Panini a décidé de se la jouer à la Marvel, peut-on dire, puisqu'ils vont relancer donc comme je disais Marvel Icons. Alors dans Marvel Icons, il y aura toujours New Avengers, Invincible Iron Man, Fantastic Four et Captain America. Donc apparemment aucun changement de planning de série. Donc on retrouve les quatre séries phares qui ont fait le succès du titre sous le label Heroic Age, bien entendu, puisqu'on en sera là en février. Marvel Heroes, donc toujours Thor.
Ce sera le volume 3, si j'ai bien compté, de Marvel Heroes, parce que c'est la troisième fois que...
Tout à fait, ouais. Le premier Marvel Heroes n'avait pas grand chose à voir avec le second volume. Donc celui-là, on garde un petit peu le... Enfin, de toute façon, le premier a disparu longtemps avant la création du second volume, en fait.
Ouais, mais c'est pour le principe.
Voilà.
J'aime bien gueuler.
Bon. D'accord.
Au cas où certaines personnes n'auraient pas encore remarqué.
Voilà. Et donc, Thor et Hulk seront toujours de la partie, mais rejoindront à cela les Avengers de Bendis et Romita Junior parce que Mighty va disparaître.
Voilà, parce qu'ils le valent bien.
Oui, Mighty va disparaître. Donc à la place, on aura les Avengers de Bendis et Romita, et on aura surtout Avengers Academy. Très bon titre. Voilà. Mais sympathique en tout cas pour le moment. Remplacera Avengers Initiative, donc un bon titre remplacé par un aussi bon titre, ça va, ça pourrait être pire.
Le truc c'est que du coup, un petit peu comme c'est actuellement, on pourra pas lire toutes les séries Avengers, en tout cas équipe dans le même mag, et toutes les séries solo dans un autre mag, c'est toujours mélangé.
Oui, c'est vrai, mais bon, ça donne un petit côté strange à tout ça, c'est pour ça que ça fait peut-être le succès de ces magazines. Bon.
Je sais pas, le concept un mag que des équipes et un mag que des personnages solo est pas mal aussi. Mais bon, voilà.
C'est pas le choix
qu'ils ont fait, bon, de toute façon.
T'es grincheux. Donc, on continue avec Marvel Stars. Alors ça, c'est un nouvel arrivé, par contre.
Mais quel nom de merde.
Marvel Stars. Oui,
c'est pourri comme nom, faut être honnête.
Oui, Marvel Stars, oui. Alors, ils auraient pu ressortir le...
Je sais pas, je trouve que ça fait télé-réalité, quoi.
Il y avait le Marvel Legends à un moment donné, ou le, je sais plus, il y avait d'autres noms comme ça de magazines. Ils auraient pu les ressortir. Là, c'est Marvel Stars avec donc les Thunderbolts, nouvelle mouture.
En fait, c'est le mec qui va remplacer Dark Reign.
Voilà. Mais sauf que ça va s'appeler Marvel Stars.
Déjà, ils ont été malins, ils n'ont pas appelé Heroic Age.
Oui.
Puisque la bannière Heroic Age va bien disparaître d'ici un moment ou un autre. Donc, donc m'étonnerait qu'on reste 3 ans sous l'Heroic Age. Donc voilà, ils ont
Quoique.
été plutôt malins.
Quoique, hein, quoique. Parce que Marvel Stars, pour mettre du Thunderbolts, du Secret Warriors, du Incredible Hulk et du Secret Avengers. Bon, alors, mis à part Secret Avengers, qui est quand même une équipe d'Avengers, le reste, c'est un petit peu, pas des séries secondaires, mais des séries un petit peu moins lues en France, et appeler le truc Marvel Stars, c'est pas vraiment les, enfin voilà, quoi, c'est pas vraiment les séries les plus glorieuses de Marvel, quoi, tu vois.
Ouais, mais enfin, je sais pas. Thunderbolt, c'est pas mal, en tout cas
Ah
pour
oui, non, non,
moi.
non, mais tout est bon, hein. Secret
Secret
Warriors aussi,
Warriors
Incredible Hulk.
Post-Siege, je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble, donc là, je peux pas trop en parler. Secret Avengers, bon. Voilà.
Voilà.
Vous savez ce que j'en pense si vous avez lu ma review en Unspoken et si vous avez écouté les Comics Weekly. Et puis, bon, reste Incredible Hulk. Là,
Ouais.
c'est l'interrogation, je sais pas ce que ça vaut.
Bah, si c'est toujours Jeff Parker dessus, c'est peut-être pas mal.
Sur Incredible Hulk, je crois que c'est Greg Pak.
Ah
Je vais
oui,
pas
bah, de
dire
toute
de
façon, on en a
bêtises.
lu quelques-uns, là,
On en a
récemment.
eu 5 en français, mais est-ce que c'est toujours lui? Est-ce que la série est toujours aussi bonne? Est-ce qu'elle s'essouffle pas? Ça, je ne sais pas.
Bon, à voir. Je ne sais pas trop non plus, mais bon. Enfin, je suis relativement confiant sur ces numéros-là. Ensuite, on part du côté des mutants
Donc voilà,
avec...
donc en fait, toute cette partie relaunch, c'est pour février, ça.
Tout,
Je me
tout...
rappelais pas si tu l'as précisé.
Oui. Tout ça, c'est pour février. Ah oui, puis ensuite, c'est en mars,
Oui,
donc.
voilà.
En mars, à partir de mars, c'est les X-Men. Tout le monde des X-Men qui est relaunché aussi. Donc, X-Men repart au numéro 1. Alors, c'est de mémoire la première fois qu'X-Men repart au numéro 1, c'est-à-dire que
Ben oui,
finalement on
c'était
n'atteindra
trop.
pas. C'est quand même marrant.
Mais
Je
moi, je trouve
pensais
ça
que...
con.
Mais
Je trouve
oui.
ça vraiment très con parce que c'est
Bah
bien
oui.
d'avoir des gros numéros. Parce que si c'est pour nous faire une politique à la Marvel, c'est-à-dire États-Unis, et nous faire une reprise de l'ancien numéro, numéro 200, là, ça va pas le faire.
Ouais, ça va pas le faire. Non, non, mais c'est vraiment, c'est, enfin voilà, on n'aura jamais le numéro 200. C'est bête parce que c'était vraiment la série. Je crois que c'est l'une. Écoute, je crois que c'est la seule série Panini en France qui dure depuis le début. Parce que regarde, Wolverine, non attends, Wolverine c'était une version intégrale sémique
Ouais,
qui
ils ont
avait été
gardé
reprise
l'ancienne
par Panini.
numérotation, ouais.
Voilà, ouais. Donc ça compte pas. Mais vraiment numéro 1 X-Men, enfin du début jusqu'à maintenant, c'était enfin, c'était les X-Men quoi.
Ça veut dire que ça fait, puisqu'on a eu le numéro 164 ce mois-ci, ça veut dire que ça fait 164 mois que Panini détient les droits Marvel.
Ça fait 164 mois que Panini nous emmerde. Non, je plaisante. Non, faut vraiment croire qu'on n'aime pas Panini. Mais bon, c'est vrai qu'on a des trucs à leur reprocher parfois, souvent
Bah,
peut-être.
moi, ce relaunch là, personnellement, voilà quoi.
Bah super, oui, enfin, voilà, mais je trouve ça dommage qu'ils relaunchent X-Men. Bon, donc on aura
Bah oui,
X-Men numéro
moi
1.
je suis pas pour non plus, hein, personnellement.
A priori avec les mêmes séries, hein, similaires. X-Men, enfin Uncanny X-Men, pardon. X-Men Legacy, je crois, reste dans le mag, mais il y aura aussi le troisième titre X-Men.
Oui, qui sera dans les pages d'X-Men, ce qui est plutôt logique.
Oui. Donc dans ce cas-là, est-ce que New Mutants y reste? Je ne sais pas. Puisqu'on aura X-Men Universe numéro 1 qui normalement devrait remplacer Astonishing X-Men.
Donc on prend le titre Universe comme ils ont fait pour Batman. Enfin voilà, c'est vraiment leur nouvelle politique, c'est mettre des univers partout.
Et alors, il y aura, attention, tiens-toi bien Steve, des X-Men hors série spéciale. Donc, faut déjà réfléchir à ce que... Enfin, hors série, ok, spécial en plus. Faut m'expliquer la différence entre les hors-séries et les spéciaux.
Parce que les hors-séries, ce sera peut-être des mini, alors que les spéciaux, ce sera peut-être concentré sur un personnage. Parce qu'en tout cas, là, celui-ci sera sur Cable, la fin de la série Cable.
Voilà.
Donc déjà, ça fait une place de disponible dans X-Men Universe pour accueillir une autre série, puisque Cable paraissait dans Astonishing X-Men.
Oui.
Voilà. Donc là, tout ça, ce relaunch de l'univers X-Men va avoir lieu pour Second Coming, le prochain crossover qui va bouleverser un peu tout l'univers mutant et qui va redéfinir les cartes.
Tu vas redistribuer les cartes même,
Oui,
je dirais.
redistribuer, oui. Redéfinir, oui. Non, c'est une erreur de ma part.
Et donc, tu me disais que du côté de Batman aussi, il va y avoir du
Alors
changement.
oui, un petit peu de changement du côté de chez Batman. Batman, à partir du mois de février, passe à 120 pages. Donc sûrement un cinquième épisode dans la revue.
Ouais, ce qui n'est pas plus mal, puisque vu qu'il est devenu bimensuel, hein, si je me gourre pas. Non, attends.
Oui, non, il est bimestriel.
Bimestriel, oui, puisque bimensuel, ça ne veut pas dire la même chose.
Ça veut dire comme Comic City, 2 fois par mois.
Oui, voilà. Donc bimestriel, tu fais bien de me corriger. Corrige-moi, Steve.
Tiens.
Donc voilà, et du changement aussi là-dessus, pas d'autres changements a priori chez DC.
Si, un autre petit changement, le DC Universe hors série,
Oui.
qui devait notamment faire paraître la mini-série complète Flash Rebirth,
Oui.
enfin, finalement, ça ne paraîtra pas dans un DC Universe hors série, mais dans un nouveau magazine qui s'appellera DC Legacy.
Ah, mais c'est bien. Alors, il y aura deux magazines?
Je sais pas. En fait, ça, apparemment, ce sera un trimestriel, d'après ce que j'ai cru comprendre.
D'accord. Oui, donc ce sera plus ou moins du hors-série, quoi, quand même. Il y en aura quatre par an, quoi.
4 par an, voilà. Donc là, et finalement, Flash Rebirth s'est repoussé d'un mois. Ça sortira en novembre et non pas en octobre, comme c'était initialement prévu. Autre chose qu'on a oublié de préciser pour les X-Men, un Monster Spécial X-Factor va arriver en 2011. Je ne sais pas quel mois par contre.
Février. Février.
Février, d'accord.
Voilà, avec les épisodes 46 à 50 et 200 à 203, puisque la série reprenait sa numérotation originale. Donc
Ainsi
c'est...
que le one-shot X-Factor Nation X.
Ah oui. Eh ben, en tout cas, c'est une excellente nouvelle.
Voilà, 280 pages. Mais en plus, il nous précise que X-Factor sera bien au sommaire d'X-Men Universe. Donc
Dès le mois suivant,
dès le
dès
mois suivant,
mars.
voilà, dès le mois de mars.
Voilà. Donc, excellente nouvelle.
Voilà, donc 288 pages d'X-Factor en février.
Alors là, c'est l'une des meilleures nouvelles de l'année.
Ah mais c'est cool quoi, c'est cool. Au moins ils abandonnent pas la série, c'est une bonne chose.
Oui, et puis en plus, on a et l'épisode 50 et l'épisode 200.
Ouais, mais je crois qu'il y en a un qui n'est pas double. Je ne sais plus lequel.
Oui, enfin, c'est pas grave. En tout cas, du moins qu'ils sont bons,
Voilà,
c'est tout ce
c'est
qui
bon.
compte.
Donc voilà, donc bah grosso modo, le gros relaunch de chez Panini, qui nous la joue à la Marvel.
Ouais, tout à fait. Et Panini ne va pas, enfin a priori, il y a des rumeurs toujours qu'on entend ici et là où on nous dit Panini pourrait perdre les droits de Marvel. Comme tu disais Steve, c'est très 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 peu probable puisque Panini appartient à Disney.
Enfin à Marvel en fait, mais donc maintenant à Disney.
Oui, enfin,
Mais au fond, ouais.
oui, voilà. Ça a l'air facile, mais au fait c'est compliqué, mais au fait c'est facile.
Deux dernières petites choses à ajouter du côté de chez Vertigo pour Panini en 2011. En février, arrivée de deux nouvelles séries Vertigo. Le mois de février va être super chaud au niveau du portefeuille, ça va faire super mal.
Bah c'est Angoulême, donc c'est normal, il se lâche quoi en février, je sais pas.
Attention, en février, The Unwritten en français ainsi
Oh
que
là là.
American Vampire. Les
Ah
deux
oui.
gros derniers succès de
Ouais.
Vertigo.
Bah ça y est, ouais, The Unwritten, je savais pas, en fait, j'en discutais il y a quelques jours avec vous, on savait pas enfin avec vous, Steve et d'autres. Je ne vous vois pas Steve. Très cher Steve, donc j'en discutais avec vous et on disait que The Unwritten, on se demandait où il allait sortir. Est-ce que ça allait être publié par exemple chez Delcourt? Et ben non, finalement c'est Panini aussi.
Bah, de toute façon, vu que c'est eux qui ont Vertigo, c'était fort peu probable que ce soit ailleurs, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui. Mais par contre, j'espère donc que la traduction sera à la hauteur de cette œuvre qui est colossale quand même.
Ah oui, parce que là, il y a du texte. Il y a du texte.
C'est quasiment du roman, quoi.
Là, c'est un mélange en fait entre les deux.
Oui, voilà. Donc, va falloir y aller, va falloir, je sais pas qui va s'en charger.
J'espère
J'ai
que ce
ma
sera
petite
Jérémy
idée.
Manès.
Oui,
Vraiment.
voilà. J'ai ma petite idée quand même, je pense que ce sera lui.
Donc
Et
surtout qu'il y a un énorme travail de la part de Mike Kiré dans la façon d'écrire. Il a vraiment deux styles différents quand il écrit les passages romans et ainsi que les passages BD. C'est vraiment deux styles totalement, totalement différents d'écriture. Donc voilà, enfin, faut que ça se ressente aussi au niveau de la traduction.
Oui, donc faut commencer à traduire dès maintenant, je pense.
Oui,
Voilà,
plus de
parce que c'est
paquets.
un gros boulot là. Pour
Donc voilà, vraiment pas mal de choses à venir du côté de chez Panini en 2011.
On me dit que c'est Geneviève Coulon qui sera la
Oh
traductrice.
putain. Achetez-le en VO alors. Je sais que c'est pas gentil, mais
Non,
voilà.
c'est pas gentil, mais en même temps, ce n'est qu'un. Comment dire? Voilà quoi,
Ce n'est que la
c'est comme
vérité. C'est la vérité. Allez, une
ça.
petite
Elle l'a bien
dernière.
cherché, hein, parce que la traduction de certains trucs sont assez. Enfin, c'est même pas des problèmes de traduction, quoi. C'est vraiment des problèmes d'expression
Ah
qui
oui,
n'existent pas.
totalement. Totalement. Et une dernière petite news au mois de février, hein, pour la route. Un gros deluxe de All-Star Superman.
Mais qu'est-ce que. Ah ouais. C'est comme ça, Steve. Un gros deluxe de All-Star Superman.
Donc voilà, non, mais le mois de février va faire super mal. Je suis, enfin voilà, je suis content malgré tout d'acheter en VO et d'avoir déjà certains trucs de côté parce que putain ça. Ça va faire mal au portefeuille pour les gens qui aiment les comics en français.
Ouais, ça va être très très dur. Bon.
Bon bah voilà, si vous avez beaucoup de sous à Noël, mettez-les de côté pour le mois de février, vous en aurez
Oui, voilà,
besoin.
faites comme moi. Achetez des trucs au moment où plus personne n'achète quoi que ce soit. Gardez votre argent pour le moment venu.
Ah ouais,
Ça
non
vaudra
mais
mieux.
entre le mois de février et le mois de mars, mais surtout le mois de février, ça va être méchant. Bref, je crois que tu avais deux autres petites news.
Bah, deux autres petites news. Alors, on va partir du côté du LCF et
Oui.
le LCF qui a annoncé un nouvel invité. Et cet invité, c'est,
Ah bah je te
tu le
laisse
sais,
annoncer. Oui,
c'est
je le sais.
Giuseppe Camuncoli. Et oui, Giuseppe Camuncoli, donc on a pu voir notamment sur
Bah
Dark
Dark
Wolverine.
Wolverine. Oui, Dark Wolverine en ce moment.
Voilà. Et je crois alors qu'il
Qui avait fait du Origins aussi avant.
Ouais, et puis X-Infernus.
Ah oui, c'était lui aussi, oui, effectivement.
Voilà, X-Infernus et qu'on retrouve bientôt justement sur le nouveau titre Deacon Dark Wolverine. Enfin, c'est le même titre, mais relaunché par Marvel. Donc voilà.
Qui est sorti normalement cette semaine aux États-Unis.
Ah oui.
Enfin, la semaine dernière, au moment où vous écouterez ça, au moment où il
Voilà.
sera disponible au téléchargement, enfin sur cet épisode.
Donc le Lille Comics Festival qui encore une fois va recevoir comment dire un dessinateur prestigieux.
Parce que c'est quelqu'un qui monte pas mal chez Marvel.
Oui, bah il a fait de bons trucs. On le voit de plus en plus et on voit de plus en plus son nom sur les crédits. Donc voilà, un dessinateur à surveiller que vous pourrez rencontrer au Lille Comics Festival les 13 et 14 novembre prochains, rappelons-le. Également, juste aussi pour dire que Frank Quitely a révélé un petit peu l'affiche, enfin les premiers crayonnés au fait de l'affiche du Lille Comics Festival. Et cette affiche, si je ne dis pas de bêtises, sera comment dire à remporter lors d'une tombola au fait comme chaque année.
Voilà, l'affiche originale.
Donc voilà, l'affiche originale, donc pour avoir un original de Quietly, eh bien pareil, encore une bonne raison d'aller au Lille Comics Festival et de participer à cette fameuse tombola, et peut-être qu'avec un peu de chance, vous repartirez avec l'affiche du maître Quietly que Steve adore.
Oh non, j'aime bien. C'est par rapport à la discussion qu'on avait hier. On parlait où je
Voilà.
disais que je m'en foutais d'une signature de Quietly. Voilà. Vous savez tout.
Voilà. Mais bon, alors j'espère qu'on
Disons que
aura le droit
je suis
de.
plus intéressé par une signature d'Andy Deagle. Voilà, c'est plus
Oui, de
mon
toute
truc.
façon, on t'aura tes signatures, Steve. Mais de toute façon, qu'on vous le dise, hein, c'est fait d'avance, on va partir avec l'affiche, donc ça sert à rien. Non, non. Non, on se tapera l'affiche au Lille Comics Festival, mais
Ça
on ne
oui, ça
partira
oui.
pas avec, malheureusement.
Ça, on va se taper l'affiche.
Voilà, donc. Si vous voulez aussi nous voir nous taper l'affiche, eh bien soyez là. Bref, on va passer à autre chose quand
N'oubliez pas de, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à contacter le Lille Comics Festival pour être bénévole, si vous le pouvez. Vous ferez partie du Lille Comics Festival d'une autre manière et vous pourrez aussi profiter du festival, bien évidemment. Mais ça vous permettra de voir le festival d'un autre œil et puis vous aiderez aussi les organisateurs du Lille Comics Festival et c'est une bonne chose.
Oui, c'est une très bonne chose. Et en plus, comme tu dis, Steve, vous aurez des rapports privilégiés, peut-on dire, avec bah, les organisateurs, les auteurs, nous-mêmes d'ailleurs, pourrez nous rencontrer en vrai. Donc c'est quand même déjà.
Je maintiens que je m'engage à serrer la main à tous les bénévoles.
Alors là, c'est vraiment enfin voilà, on peut pas refuser là. Donc voilà, le Lille Comics Festival les 13 et 14 novembre prochains et pour avoir plus de renseignements sur le bénévolat, réécoutez l'ex-épisode de Comic City où on en parlait plus en détail et on en reparlera de
On en
toute façon.
reparle de toute façon. Sûrement dans le prochain podcast, on refera un point sur le Lille Comics Festival avec les invités, tout ça.
Très vite, la suite des news avec de la TV et du cinéma. Alors, La Tour Sombre a le vent en poupe puisqu'on nous annonce à la fois des adaptations ciné et télé. Bon,
Ouais, les
alors,
deux, carrément.
voilà, les deux, carrément. Donc, pour le moment, bon, c'est plutôt le stade de la rumeur, hein, faut voir si ça prend forme, mais les gens responsables du Da Vinci Code, donc, bon, le Da Vinci Code, je vais te dire franchement, ça n'a pas, enfin, je m'en souviens pas tellement comme quelque chose de mémorable, mais Ron Howard, Akiva Goldsman et Brian Grazer devraient donc adapter, en 2011, enfin, dès 2011, les 7 tomes constituant la saga La Tour Sombre, en 3 films, donc en une trilogie. Et
Ça, c'est de la compression.
Et devrait y avoir une saison complète de La Tour Sombre à la télé, produit par Universal et NBC.
Putain, mais c'est super redondant, quoi, d'avoir deux versions qui sont annoncées en même temps, quasiment.
Donc est-ce que ça va être comme pour Millennium où ils avaient fait pour ça au fait un film et puis des adaptations télé au fait plus longues. Je sais pas au fait si ça va s'entrecouper, si ça va être avec les mêmes acteurs, etc. Donc à voir quoi. Comment ils font.
D'accord.
Donc on rappelle que La Tour Sombre, c'est à la base un roman, enfin une série de romans de Stephen King,
Voilà.
adapté en bande dessinée par Peter David depuis quelques années chez Marvel, il me semble.
Oui, chez Marvel, oui.
Et donc pour les épisodes télé, d'ailleurs, Damon Lindelof et Carlston Kuce de Lost devraient bûcher dessus aussi.
D'accord.
Donc enfin voilà, donc c'est vraiment alors, un truc qui paraît quand même assez énorme.
C'est ouais, c'est super énorme hein, comme truc.
Donc voilà, bon alors pour le moment à prendre avec des pincettes, hein, faut voir où ça mène tous ces projets. Mais pour les fans de la Tour Sombre, ils sont doublement comblés.
Ouais bah mais c'est un truc que je me dis qu'il faut que j'essaye depuis très longtemps et j'ai jamais trouvé l'occasion de le faire encore. Peut-être falloir que je m'y mette un jour.
J'avais pas
Parce que.
accroché moi au fait au roman,
Au
enfin.
roman, moi je pensais à la version comics.
Oui
Et
voilà, faudrait
j'en ai
peut-être que je
entendu
fasse
que
moi.
du bien, donc faudrait peut-être que je m'y mette un jour. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce bien, est-ce pas bien, etc. etc.
Et on termine juste avec une petite news légère, peut-on dire, une petite news légère, c'est January Jones. Alors je ne sais pas si tu la connais.
Mais son nom me dit quelque chose, mais je sais plus dans quoi la joue.
American Pie, Marion Lee, en 2003, dans
Ouais, bah,
Self-Control.
ça, moi, j'ai pas regardé l'American Pie, tu vois, je me suis arrêté au premier. Non, deux, je crois, j'ai dû en voir deux.
D'accord. Donc le 2000, enfin celui en 2003, c'est peut-être le troisième, tu penses?
Alors là, j'ai perdu le compte.
Oui, je sais pas. Self-Control. Love Actually, Dirty Dancing numéro 2.
Oh, pardon.
Oui, voilà. Donc voilà, c'est quand même des chefs-d'œuvre incontestables. Et donc, eh bien, elle va jouer Emma Frost dans Captain America, The First Avengers. Non, mais non, n'importe quoi. Ridicule.
On n'est pas en forme pour que ça nous fasse rire autant, on n'est vraiment pas en forme. Donc dans X-Men First Class,
Oui, dans X-Men First Class.
qui va
Voilà.
se passer dans les années 60.
Oui, qui va se passer dans les années 60, et d'ailleurs son costume fait vraiment penser à une nana qui jouerait dans la série Batman des années 60.
Ouais, ou fait un peu penser à l'époque, bah justement Mad Men. Enfin, tout ce genre de trucs qui se passent dans les années 60.
Non mais je sais pas si tu te
Happy
rappelles, mais
Days.
il y avait toujours une espèce de pouf qui était avec le méchant dans la série Batman,
Ouais.
tout le temps. Et à chaque fois c'était une nana différente. Et il paraît d'ailleurs que les tournages se terminaient souvent en partouze, quoi.
Ouais.
Voilà.
En partie fine, pour être plus.
Oui, en partie fine. Pour les plus jeunes auditeurs, qui
Bon,
seront
vous
bien
êtes trop
tentés.
tard, hein. T'as déjà balancé le mot, donc c'est bon.
Oui, non, non, mais c'est manger des chocolats,
Oui, c'est ça, tout à fait.
des bonbons après le tournage, quoi. Enfin voilà.
Voilà, c'est exactement ça.
Tout à
C'est
fait.
une orgie de dégustation de bonbons.
Oui, voilà. De spéculoos.
Je
Donc Matthew Vaughn, hein, c'est l'adaptation, enfin, réalise ce chef-d'œuvre absolu. Il est prévu pour juin 2011, voilà. Donc on vous mettra un lien vers les images de la Reine Blanche, hein, Emma Frost, version Matthew
D'ailleurs, sur
Vaughn,
ces
version.
photos, sur ces images, on en voit deux. C'est incompréhensible.
Oui.
Je
Oui, bah c'est
comprends
peut-être une
rien.
comment
Une
s'appelle? Une
doublure.
coucou là? Une
Ah,
coucou.
les Kekous, tu crois déjà?
Les
Oh non, je pense
coucous, ouais.
pas. Non, parce que les Kekous sont quand même vachement plus jeunes que Emma Frost, là. Là, c'est vraiment la même, quoi. Donc je pense que ça va être peut-être une doubleuse pour des scènes d'action ou un truc comme ça. Mais ça a rien y comprendre.
Ah que coucou. Voilà.
Ok. C'est donc sur là-dessus qu'on va stopper la grosse partie news et qu'on va
Oui.
passer au review de la quinzaine. On commence avec le Marvel Icons hors-série numéro 18. Dans ce hors-série, nous avons les trois derniers épisodes de la mini-série Captain America Reborn, donc au scénario Ed Brubaker, au dessin Brian Hitch et à l'ancrage Butch Kais. Donc, bah, c'est la suite de cette histoire. Bon, de toute façon, moi déjà, j'avais pas trop aimé la première partie. Bah, la deuxième, c'est pas mieux.
D'accord.
Ça laisse
D'accord.
un
Non, non,
trou.
mais
Mais
d'accord.
non, non, enfin, moi je sais pas, je trouve cette mini-série totalement inutile. Ça aurait pu être réglé en un one-shot, et voilà.
Ouais. Enfin bon. Alors bon. Je pense que la mini-série est surtout là pour les dessins de Brian Hitch. Ils sont quand même pas mal, les dessins de Brian Hitch.
Ouais, mais ça se... Enfin, je sais pas, moi je vois pas l'intérêt d'en faire 6 épisodes, quoi. 6 épisodes, sachant qu'en plus aux États-Unis il y a eu vachement de retard, que ça avait posé des problèmes, notamment avec l'épisode de Mighty, je crois que c'était Mighty, hein, où on voit Steve Rogers à la fin.
Non, c'est dans... Non, c'est dans New Avengers.
C'est dans New Avengers, oui, pardon. On en parlera tout à l'heure de toute façon. Enfin voilà, il y a eu quelques soucis de délai. Enfin, c'était... Voilà, tout ça pour ça, en plus, je veux dire, y a rien. Dans cette partie, le plan de Red Skull se met en place. Il essaye de piquer le corps de Captain America.
Oui,
Et bien sûr, s'engage une bataille mentale entre les
ouais,
deux.
mais ce qui est déjà arrivé maintes et maintes fois.
Voilà, enfin, je veux dire, franchement, enfin, il y a trois épisodes, trois doubles épisodes en plus, et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien dedans. Ça aurait pu être réglé en un seul épisode.
Oui, au fait, moi je sais pas pourquoi, j'ai cru que enfin en plus j'avais souvenir, j'avais feuilleté les numéros américains, et j'avais souvenir que ça se terminait sur une bataille entre donc Red Skull version Captain America Steve Rogers et Bucky, mais que autour d'eux il y avait les New Avengers et surtout qui affrontaient les Dark Avengers, tu vois,
Ouais,
avec
bah,
Norman Osborn, etc.
ouais,
Et
merde.
au fait. Et au fait, non, finalement, ils sont absents de cette bataille.
C'était peut-être un numéro de Siege.
Oui,
T'as feuilleté avec ta
non, non, mais
confrérie.
je ne crois pas, mais au fait, c'était par rapport aux premières parties qui annonçaient un petit peu une... Bah, on a l'impression que Norman Osborn allait vraiment participer au truc, quoi.
Ouais,
Et puis
bah ouais,
finalement,
non.
non.
Non, il est juste là, en toile de fond, mais c'est vraiment très très léger, quoi.
Alors, bon, que dire? Bah
Ce
oui,
qu'il y a,
c'est...
c'est que le Red Skull, ce que j'ai oublié de préciser, c'est quand même allié à Doom pour essayer de mettre son plan en place.
Ouais. Bah parce que il y avait au fait l'histoire la plus invraisemblable de cette mini-série de Captain America Reborn, c'est quand même l'explication du retour de Captain America qui, au fait, grosso modo, pour faire simple, son corps était bien dans notre dimension, donc son corps était mort, entre guillemets, mais son esprit, lui, était prisonnier du temps. Donc déjà, pour expliquer ça, c'est balèze, sachant que Sharon Carter serait la clé qui permettait à son esprit de revenir dans le temps présent et donc de réintégrer un corps tout nouveau d'ailleurs, fait sur mesure, qu'on lui a filé. C'est bien.
Je sais pas, mais moi, enfin, j'ai trouvé ça vraiment longué déjà. Là, les trois premières parties, c'était long, ça avançait pas. On voyait Roger sauter d'époque en époque. Et puis alors après, tout s'accélère, mais ça s'accélère, mais finalement pour rien, parce que la bataille traîne en longueur. Tout, enfin, c'est vraiment lent, quoi. C'est décompressé, je trouve. Et bon, c'est
Ouais.
pour ça que je pense que un bon gros one shot de 70 pages, c'était faisable.
Mais ce que je disais par rapport à l'histoire du voyage dans le temps, c'est qu'effectivement, ils avaient au moins besoin de mettre Doom dedans pour un petit peu, comment dire, que ça rende le truc plus réaliste, entre guillemets, quoi. Que ça donne une explication un peu plus réaliste. Parce que s'ils avaient même pas utilisé Doom, alors qu'on te parle de voyage dans le temps, là oui, là, ça aurait été vraiment encore plus, capillotracté, quoi, en fait.
Ouais, non, mais je sais pas, je trouve ça long et je trouve ça chiant, quoi. Enfin, tout ça pour en arriver au retour de Steve Rogers, mais je sais pas, je trouve ça vraiment lourd.
Ben à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que après un certain nombre de numéros de Captain America avec Bucky dans le rôle de Cap, la série a arrêté de vendre. Enfin, la série a arrêté de vendre. A vendu beaucoup moins de numéros que précédemment. Et faut dire que Brubaker était un petit peu en baisse de régime. Hein, on a trouvé.
Mais même là, moi je le trouve totalement baisse de régime. Hein.
Et donc Quesada a dû lui dire, bah écoute, ramène-nous le vrai, quoi, du coup.
Alors, je sais pas si c'est ces multiples projets à côté qui l'épuisent, mais
Ouais,
il
non,
faut
mais
qu'il
là,
fasse un break,
c'est
quoi.
clairement du Brubaker très très moyen. Hein. C'est vraiment bof, quoi.
Mais
On en oublie même que c'est lui au scénario. Enfin, ça ressemble en rien à ce qu'il fait sur Daredevil, par exemple.
c'est ce que je disais dans un des derniers Comics Weekly. Je parlais de sa série, justement, Secret Avengers, et puis notamment sur le Unspoken que j'avais fait. Voilà, le mec a fait énormément de projets. Il travaille sur ses criminals. Il travaille donc sur Captain America. Il avait fait Daredevil, il s'est arrêté. Bon, il a pris sur autre chose. Il a fait Marvel's Project. Enfin, il a fait tellement de choses en même temps. Il y avait Capriborn. Enfin, bon, voilà, quoi. On peut pas tous écrire 50 séries par mois. C'est pas possible. Il y a des
Ouais.
gens qui peuvent et qui arrivent à rester à peu près cohérents sans sentir cette grosse baisse. Malheureusement, chez lui, là, ça commence à se sentir sévèrement. Donc peut-être qu'il serait temps qu'il ralentisse un peu pour nous répondre des bonnes histoires. Enfin, en tout cas, moi, je n'accroche plus du tout à ce qu'il écrit. depuis maintenant presque entre 6 mois et 1 an.
Ouais. Mais le problème, c'était peut-être effectivement que Bucky ne remplaçait pas finalement Captain America, quoi. Il le remplaçait pas vraiment. On le voyait toujours en tant que Bucky dans les scénarios de Brubaker. Et du coup.
Sur le polar, il est toujours très très bon, Criminal par exemple, ou Daredevil, puisque ça reste quand même, même si c'est du super-héros avec une grosse connotation de polar, par contre sur le super-héros pur, voilà quoi, le mec est à côté, je trouve.
Bon, moi ce qui m'a juste interloqué, c'est la fin. Tu sais, avec les espèces d'extraterrestres, la vision du futur, je ne sais pas ce que c'est que ce
Ouais,
truc.
alors ça c'est pour essayer de nous mettre un plot en place, je pense. Mais je sais
Ouais.
pas si quelqu'un va s'en servir un jour.
On verra. On verra bien. Ça se terminait donc ce hors-série sur au fait qui va porter le bouclier.
Ouais, alors ça je ne l'ai pas lu, malheureusement j'ai complètement zappé
Voilà,
ce
bah
truc.
alors. Un épisode, donc juste pour dire les crédits, donc Abe Brubaker au scénario et Butch Gis et Luke Ross au dessin. Bah écoute, c'est tout simple. En fait, on voit d'un côté Steve Rogers qui se dit est-ce que je devrais redevenir Captain America? De l'autre côté, on voit Bucky qui dit est-ce que je vais pas lui laisser porter le costume de Captain America? Après tout, je suis le Winter Soldier plus que Captain America. J'étais juste là pour le remplacer, etc., etc. Donc voilà, ils sont un petit peu en train de réfléchir, chacun de leur côté avec leur petite amie respective. Donc d'un côté Sharon Carter et de l'autre la Veuve Noire. Et au fait, il se passe strictement rien de passionnant dans cet épisode, si ce n'est la fin où Steve Rogers rend visite à Barack Obama. Barack Obama comment dire, lui fait une grâce présidentielle.
Ouais, sur ses actions qui
Voilà,
étaient
par
contre.
rapport aux actions de Civil War,
Voilà.
etc., etc. Mais en gros, il lui dit que voilà, c'est juste pour lui. Par contre, le super-héros Registration Act est toujours pour le moment en place. Et il lui dit qu'il va avoir besoin de lui. Enfin, que Barack Obama va avoir besoin de Captain America, ou en tout cas de Steve Rogers, pour quelque chose de très important. Et on ne sait pas quoi. Voilà.
D'accord.
Donc, à voir ce que c'est. Et à mon avis, ce sera dans Siege, évidemment.
Ou post-siege, peut-être.
Ah. Exactement.
Je sais bien comment tu veux même plus le tenter.
Voilà. Donc, un hors-série. Je sais pas alors pour toi, mais
Ah, pour moi,
bon,
enfin, c'est
moi
totalement dispensable.
j'ai pas détesté cette lecture, mais c'est vrai que c'est pas terrible, terrible, quoi. C'était loin de ce que fait Brubaker d'habitude.
Moi, je trouve ça long et chiant, et voilà. Enfin, moi, j'encourage pas les gens à l'acheter, mais bon, bah, c'est un moment, c'est le retour de Captain America. C'est quelque chose qui est censé marquer l'histoire du personnage ainsi que l'univers Marvel. Pour moi, c'est surtout un gros coup de com, et voilà, c'est tout. Il y a rien derrière.
Il y a les dessins.
Ouais, mais bon, ça fait pas tout, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais bon, ils sont beaux.
Ah oui, non, par contre, ça, c'est net, c'est beau, mais.
Bon, bah
Bref,
d'ailleurs.
voilà. Bon, on va passer à la suite, peut-être. Et la suite, c'est Marvel Icons numéro 65. Le Mac commence avec le New Avengers numéro 60, scénario de Brian Bendis, dessin de Stuart Immonen, ancrage de Wade von Krauwbacher. Donc c'est la fin de l'arc sur Luke Cage et ses problèmes de cœur. Et
Oui,
le
enfin,
fameux
c'est pas,
truc.
alors, attention, c'est pas ses problèmes de cœur
Oui,
sentimentaux, hein.
ses problèmes de cœur physiques.
Oui, voilà.
Et le fameux petit. Truc qu'a placé Norman sur son cœur. Une espèce de. Bah, je vais pas révéler ce que c'est. Il lui a placé un petit élément sur le cœur quand il l'a soigné.
Oui, comme à son habitude, d'ailleurs, Norman Osborn aime bien placer des trucs sur ses victimes.
Et bah alors, franchement, l'épisode est assez sympa, je trouve.
Ah bon? Bah moi j'ai trouvé l'épisode, comment dire, très très basique, quoi. Tu vois,
Basique, mais sympa, je trouve. Par rapport aux autres parties, j'avais l'impression que celui-ci bougeait vachement plus, quand même.
Ouais, bah pour moi la fin était très convenue, quoi, très
Ah bah
bendicienne, c'est-à-dire que
oui,
tu
ça
te
oui.
dis que les super-héros vont s'en sortir et que ils vont trouver une petite astuce pour que Norman Osborn finalement n'ait pas ce qu'il veuille à la fin. Et surtout, bah la fin était, je me suis dit quoi, tout ça pour ça, tu sais.
Ah bah c'est souvent ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même des bons dialogues, le passage avec Ant-Man et Doctor Strange qui, enfin, Wasp, pardon, et Doctor Strange qui rétrécissent pour aller dans l'organisme de Luke Cage pour justement essayer de voir qu'est-ce qu'il lui a implanté sur le cœur.
Ah oui, non mais moi ce qui m'a fait rire c'est l'arrivée de Wasp qui dit tout un truc et personne l'entend parce qu'il a oublié de brancher
Ouais. Ah, puis
son micro.
il y a la réplique de Spider-Man où il lui dit, ah tiens, t'as deux personnes en toi. Et Luke Cage, il regarde et qui lui fait, ne leur dis plus jamais ça.
Ah oui, c'est vrai. Oui,
Mais il y a des
oui.
très bons dialogues, franchement, qui m'ont bien fait marrer.
Oui.
Voilà, bon, je sais pas, et puis le passage sur, bah, tous les, enfin, le The Hood qui justement va voir ses anciens mercenaires, enfin, les gens qui travaillent, ses anciens employés, qui maintenant veulent travailler pour Norman, et qui, au final, vont peut-être regretter leur décision, qui se font bien avoir. Je sais pas, moi je trouve que l'arc finit vachement mieux qu'il a commencé, parce qu'au début c'était quand même super long.
Bon, et ben moi je vais te dire un truc, le prochain épisode, donc celui dont on va parler ensuite, prouve que Bendis est un escroc et je vais te montrer pourquoi.
Ah bah.
Si tu ne l'as pas remarqué, je vais te le prouver là. Vas-y, donc
Donc voilà,
enchaîne.
enfin bon, en tout cas pour moi, c'est un bon épisode. Pour toi, plutôt moyen, je crois.
Bah enfin plutôt basique quoi, banal quoi. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Non mais c'est sympa. Globalement c'est sympa. J'ai pas détesté non plus.
La suite, c'est donc le New Avengers Annual numéro 3. Toujours Brian Bendis au scénario. Et au dessin, on retrouve Mike Mayhew, qu'on avait pu voir le mois dernier dans The List. Le petit, je crois, c'était West, je crois que ça devait être The List, le petit mini-épisode de Spider-Man.
Le petit mini.
Oui.
C'est original, ça.
Un joli pléonasme. Le mini-épisode là sur Spider-Man, enfin Victoria End, qui allait parler à Peter Parker, qui était très 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 beau.
Oui.
Tu te rappelles?
Oui, il me semble, oui. Oui, il me semble, oui.
Voilà.
Oui, c'est vrai, oui, d'accord, oui. Oui, avec le bouffon vert.
Voilà, c'est ça.
Oui, d'accord. Oui, j'avais complètement oublié. D'accord.
Voilà. Et donc là, c'est la suite de The List Avengers, donc
Voilà,
où
c'est le.
Ronin était capturé. On se demandait, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il est toujours dans les New Avengers, il a été capturé. Bon voilà. Et donc là, voilà, Clint Barton est entre les griffes de Norman, qui veut le torturer pour savoir où sont les Avengers.
Et alors, l'épisode est sympa, mais au fait, est-ce que ça te dit quelque chose, un épisode où Norman Osborn et son équipe retiennent quelqu'un, les Avengers font diversion pour que l'équipe de Norman Osborn aille ailleurs, et pendant ce temps-là, ils viennent secourir leur ami?
Je sais pas, le même arc dont on vient de parler, non?
Non, non, mais regarde, ça, je viens de te résumer, t'es d'accord, cet
New Avengers
épisode?
58-59, ouais.
Oui, non mais je viens de te résumer aussi l'épisode de la New Hall.
Ouais, c'est
T'es
ça.
d'accord avec moi?
Ouais, entièrement.
C'est pas exactement la même chose qui s'est passé dans le truc avec, je crois que c'était Luke Cage qui se faisait.
Ben oui, c'est ça, c'est le New Avengers numéro 59.
Oui,
Celui où
oui.
venait secourir Luke Cage, c'est exactement la même chose.
C'est exactement le même truc, c'est
Non, en
exactement la
fait,
même
c'est pas la
histoire.
même chose, non, parce que c'est pas les mêmes personnages.
Non mais
T'as
d'accord, mais
rien
attends.
compris, hein, c'est... Oh là
Non,
là!
attends, attends, je vais devenir fou avec Bendis. T'es d'accord avec moi? C'est exactement la
Ah
même
ben c'est
histoire.
le même principe, ouais, bien sûr, c'est le même principe. Mais
Oui,
cet
mais attends,
épisode est
mais.
super convenu, quoi. Il n'y a aucune surprise dans cet annual.
Ouais,
Rien.
non, mais quand je te disais que Bendis nous resservait les mêmes histoires, mais différemment, avec différents personnages, et tu me dis, ouais, mais enfin. Mais là, écoute, là,
Non mais
franchement,
là
à un
oui,
point
non mais là c'est
d'intervalle.
flagrant. Là c'est flagrant, il n'y a pas de doute.
Oui.
C'est le même stratagème utilisé à 2 mois d'écart, attends.
Oui,
Je veux bien croire
oui.
que des certains. Enfin, je sais pas, ils nous prennent pour des cons, quoi.
Bon, attends. Mais alors, bon, alors peut-être que c'est même fait exprès, mais dans ce cas-là, enfin, c'est quand même un peu du foutage de gueule. Mais le truc marrant, c'est que Bendis fait dire à Bullseye, donc Bullseye s'adresse à Norman Osborn et lui dit, à croire qu'ils ont été assez futés pour deviner que vous trouveriez leur adresse, décamper à temps et profiter de l'occasion pour sortir Barton d'eux. Et puis là, à ce moment-là, t'as Norman Osborn, c'est qu'il se retourne, genre qu'il va lui foutre une pêche. Et tu sais, parce que ça l'énerve vu que effectivement il doit se dire ça fait deux fois quoi.
Mais ce qui m'ennuie un petit peu aussi avec l'écriture Bendis sur Norman Osborn, c'est que j'ai l'impression que Norman Osborn est un personnage de cartoon, tu sais, un vieux dessin animé des années 80, 90, où le méchant se fait toujours avoir bêtement et voilà
Oui.
quoi. J'ai vraiment cette impression-là, alors que Norman Osborn, j'allais dire Bendis, pardon, Norman Osborn écrit par d'autres scénaristes. Dans le Dark Reign, est beaucoup plus froid, beaucoup plus manipulateur, beaucoup plus calculateur que écrit par Bendis. C'est bizarre.
Oui. Et puis oui, bah par exemple dans Thunderbolts, s'il arrive à piéger tout le monde, il sait que Natasha a infiltré l'équipe des Thunderbolts depuis le début, enfin il est super balèze.
Regarde simplement comment il agit dans Mighty Avengers, dont on va parler tout à l'heure. Enfin, je veux dire, il n'a pas du tout le même comportement.
Oui, effectivement.
Donc non, c'est assez. c'est assez bizarre, quoi. Il le fait vraiment passer pour un bouffon, sans jeu de mots.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça que je reprocherais aux Avengers de Bendy, c'est qu'à force, c'est toujours léger, quoi. Et tous les épisodes sont pareils. Ils sont en danger, ils font diversion, ils viennent sauver leur ami, ils repartent. Norman Osborn fait ah, il piétine par terre en sautillant.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Voilà.
C'est exactement ça, je te dis, c'est un personnage de cartoon.
Oui.
Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'a pas de surprise. Ben, je veux dire, là, en débutant l'épisode, je me suis dit, bon, ça va se terminer comme ça, effectivement. Ça nous manque. Les surprises de Bendis nous manquent.
Oui, mais les surprises de Madness nous manquent depuis bien longtemps, moi je trouve, parce que là,
Ben, depuis Secret Invasion, quoi.
oui, mais là l'épisode, honnêtement, c'est le même, c'est vraiment une grosse supercherie, quoi.
Ah, c'est beau. Je reprends le même
Bah
argument.
oui, voilà, comme pour Captain America, oui c'est beau, mais Steve Rogers,
Mais ça ne
ça a
fait pas
une
tout.
sale tête à la fin, je trouve.
Ah ouais. Ah ouais, c'est terrible.
Il a quand même une sale tête, hein.
Elle m'a fait peur. Sur le moment, je l'ai pas reconnu.
Voilà. Bon, bah on. Peut-être passer à Iron Man, du
Ouais,
coup.
le dernier épisode du Mac, c'est le Invincible Iron Man numéro 19, au scénario Matt Fraction et au dessin Salvador LaRocca.
Je crois que c'est un épisode double, je veux pas dire de
C'est un épisode
bêtises.
double aussi, oui.
Oui.
Il fait 30 et quelques pages. 30, 37, 38, quelque chose comme ça.
C'est beau. Enfin, c'est pas trop mal,
C'est très beau, mais il n'y a pas de scénario. Non, c'est bon, on va pas la faire trois fois quand même. Non, non,
y a quand même un
c'est... Non,
scénario. Moi, j'ai bien aimé.
Ouais, c'est la dernière partie de World's Most Wanted. Enfin!
Enfin, oui.
Enfin! Un an que ça dure. Un an.
Un an que ça dure et impossible de me rappeler du début du truc tellement ça a duré, quoi. C'est ça qui est vraiment enfin, qui est vraiment mal fait. C'est-à-dire que ça aurait duré 6 mois, j'aurais sans doute adoré cet arc. Malheureusement, l'avoir fait traîner un an fait que, au final, je m'en fous, quoi. Tu vois, ça m'a
Mais
lassé au final.
de toute façon, même cet épisode traîne en longueur.
Oui, tout à fait.
Stark est poursuivi toujours par Norman. Norman arrive enfin à lui mettre la main dessus et s'engage un combat entre Iron Patriot avec une armure super classe et Tony Stark en armure Mark Zero toute pourrie.
Voilà. Et on va même pas révéler d'ailleurs le stratagème qui, comment dire, qui fait que Stark ne perd pas totalement la partie.
Ouais. Non, ça c'était une bonne idée par contre. Ça,
Voilà.
j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le côté Rescue qui est toute seule, avec Pepper Potts à côté, enfin, l'armure qui peut se diriger toute seule, ou avec Pepper à l'intérieur. J'ai bien aimé ça.
Ouais.
Il y a des bonnes
Ouais,
choses.
non,
Donc
mais
de leur côté, donc on a donc Pepper, la
Maria
Black
Hill.
Widow et Maria Hill qui sont toujours dans la Avengers Tower et qui essayent de s'échapper.
Voilà.
Et donc voilà quoi. Le final est vraiment vraiment intéressant, je trouve,
Ouais,
de
il est
cet épisode. Et
intéressant, ouais.
ça laisse entrevoir d'assez bonnes choses pour le prochain arc. Maintenant, 12 mois quoi.
Ouais, ben le oui, voilà, ce qui m'a fait marrer, c'est le petit gag à la fin, donc avec Norman Osborn qui dit tiens, enfin tu vois de quoi je parle. Tiens, mais c'est qui? Enfin, tu vois
Ah
ce que tu...
oui.
Oui. Voilà. Donc ça m'a fait marrer, mais effectivement, tous, enfin, encore une fois, tu te dis, putain, quand même un an pour ça. Enfin, alors qu'on aurait pu l'avoir au bout de 6 mois, quoi.
Mais au final, enfin, l'impression générale, c'est que c'est pas mauvais, quoi. C'est juste que c'est super long.
Oui. Mais voilà, c'est ça. Mais ça aurait été nettement mieux en 6, puisque
Ah
j'aurais
oui.
nettement plus apprécié, enfin, je le sais, quoi, puisque là en 12, c'est je me rappelle que de la moitié du truc, tellement les premières parties sont loin.
Ouais.
Je me rappelle qu'il affrontait, je crois, War Machine,
Il a affronté
Namor.
War Machine, Namor, il a affronté qui d'autre encore? Il a affronté Crimson Dynamo aussi,
Ah
Madame
oui, c'est vrai.
Masque, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, mais puis on a eu Maria Hill, le contrôleur.
Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, ouais. Voilà. Ça partait dans tous les sens. Trop, finalement. Trop. Ça aurait été bien que ce soit séparé en deux arcs distincts.
Ouais, je pense. Ouais.
Bon, enfin, dans tous les cas, plutôt
Bon,
sympa tout ça, quand
c'est
même.
un Marvel Icon sympa malgré tout, hein, malgré tout ce qu'on a pu dire, c'est un Marvel Icon sympa. On prend du plaisir malgré tout à lire ça, donc est-ce que c'est pas le but finalement?
Oui, voilà. Ne nous prenons pas trop la tête
Ce
et
n'est que du
apprécions les
comics.
histoires pour ce
Voilà.
qu'elles sont.
Ce n'est que du comics.
Oui, ce n'est que du comics. Mais bon, quand même, Bendy se fout de la gueule du monde parfois.
Allez, on va passer à la suite. C'est le Marvel Heroes numéro 35. Premier épisode du mag, c'est le Thor numéro 605, scénario de Kieron Gillen, dessin de Billy Tan, ancrage de Bat. Eh ben, c'est quand même une énorme baston, hein, cet épisode. Mais il y a des choses qui sont super bien foutues dedans.
Oui, c'est quand même une énorme baston, mais ouais, comme tu le dis, Kieron Gillen est vraiment très fort pour reprendre là où JMS avait laissé les choses quand même.
Parce que pendant qu'on voit que Balder tue ces espèces d'Asgardiens qui ont été modifiés par Doom, il se rappelle un petit peu les moments qu'il avait vécu avec chacun d'eux. Et on sent le roi qui s'inquiète pour ses sujets, quoi. Vraiment, il nous assoit Balder dans ce rôle de roi, en fait, d'Asgard, qui proche de son peuple, qui s'intéresse à ce que vivent ses sujets, quoi. Pas juste le roi qui s'en fout.
Oui, et puis Fatally, c'est vraiment
Ah,
bien bien écrit
il est majestueux.
dans son rôle
Complètement
de
fou et
pourri.
majestueux en
Oui.
même temps. Puis, je sais pas, les dessins sont assez beaux quand même, hein, ça.
Bah, sont même très très bien, quoi. Très très bien. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, les dessins. Non, franchement, c'est du très très bon, du très très bon Thor. Et je pensais que la série allait un petit peu baisser de tension en attendant
Pas
Matt
du
Fraction, mais
tout. Moi
elle
aussi,
reste
hein.
à un très haut niveau, hein.
Moi aussi j'avais peur, hein, parce que bon, c'est quand même un scénariste qui est pas super super connu, et reprendre à PGMS, on en avait déjà parlé. Voilà, moi ça me faisait peur. Et là, il
Ah,
m'a
tu flippais, hein?
vraiment, vraiment, vraiment surpris, mais en bien.
Moi aussi. Voilà. Bah, que dire, hein. De toute façon, comme tu le dis, il y a beaucoup d'action, donc on va pas révéler non plus comment ça se termine, puisque le final est assez assez bien pensé.
Ouais, mais on pouvait s'en douter de toute façon déjà avec l'épisode d'avant.
Ouais, mais enfin, voilà, sans trop y réfléchir, moi ça m'a plu. J'ai pas, enfin, c'était pas la grosse méga surprise non plus,
Bah
mais
moi
je veux dire,
j'attendais que
c'était.
ça, quoi. J'attendais qu'il y ait ce personnage qui se pointe, puisqu'on l'avait
Ah oui,
légèrement
d'accord, oui,
vu.
mais de cette manière-là, je m'y attendais pas, quoi.
Ah oui, d'accord. Et puis bon, on a encore les machinations de Loki, une fois de plus.
Oui, toujours, oui.
Toujours.
Oui. D'ailleurs, c'est même exagéré, tu te dis, mais enfin, ils sont tous bêtes, ces Asgardiens,
C'est
ou quoi?
vrai que là, franchement, il pousse un peu.
Il pousse le bouchon un peu loin, Maurice. Donc, bah, bon épisode.
Ouais, très très bon épisode.
On va pas spoiler, donc on va peut-être même directement passer au suivant.
Oui, l'épisode suivant, c'est le Mighty Avengers numéro 33. Scénario de Dan Slott, dessin de Coy Pam, ancrage de Craig Young.
On avait laissé. Ah,
Ouais.
excuse-moi.
Deuxième partie, en fait, de cet arc en deux parties, qui s'appelait Mighty Dark, je crois. Quelque chose comme
Ouais,
ça.
enfin,
Qui, en
sur la.
gros,
Le
c'est...
fait, le. Faut préciser que sur la version française, ils t'ont mis un tag au-dessus de Marvel Heroes, marqué Puissant Vengeur versus Vengeur Noir 2 sur 2. Donc, comme si c'était un gros événement, mais au fait, bon. C'est surtout que. Les Dark Avengers font une apparition, mais font des apparitions dans plein de séries, donc bon. En fait, on avait surtout laissé donc l'homme absorbant qui venait d'absorber le cube cosmique.
Voilà, c'était la grosse révélation de la fin de l'épisode.
Voilà. Et donc évidemment, bah là, tout le monde était en mauvaise posture, et donc les Mighty et les Dark allaient s'allier contre l'homme absorbant.
Et puis bah voilà, pendant qu'ils essayent de le défaire, Pym et Norman Osborn cherchent une solution à comment déjà lui couper l'accès à ce pouvoir de manière à pouvoir le vaincre.
Ouais, au fait, c'est chacun essaye de tirer la couverture à lui,
Ouais.
et
Chacun rebondissant sur l'idée de l'autre et allant un peu plus loin. C'est vraiment bien écrit. Il y a un enchaînement de dialogues, là, encore une fois, super intéressant.
super drôle surtout.
Oui, en plus.
Super drôle. D'ailleurs, j'essaie de retrouver donc cette fameuse phrase.
Oui, puisqu'il y a comme on en parlait juste avant l'enregistrement, il y a une phrase qui est vraiment une moquerie à DC, mais je ne sais, c'est Moonstone justement. Enfin, Miss Marvel, Moonstone, donc. Qui se fait, puisque l'homme absorbant a le pouvoir du cube cosmique, il commence à modifier un petit peu la réalité pour certains personnages. Il divise Sentry entre le Sentry des années 60 et The Void,
Ouais.
qui se bastonne de leur côté. Il retransforme Moonstone telle qu'elle était au début. Et donc Moonstone a une phrase, tu l'as retrouvée?
Donc, en fait, elle dit en français, tu sais, elle est surprise de redevenir Opale, quoi, elle a à nouveau l'apparence d'Opale, et elle dit, un coup de poing pour changer la réalité, c'est le truc le plus, enfin bon, là, c'est censuré, donc on va dire le plus con, hein, que j'ai jamais entendu.
Ah bah c'est marrant, parce qu'ils donc ils ajoutent de la vulgarité alors qu'il n'y en a pas en VO.
D'accord.
C'est marrant parce qu'elle dit justement that's the stupidest thing I've ever heard. Donc il n'y avait
Ah
pas
oui.
du tout de vulgarité dans la version VO, quoi. Et donc là
Mais
ils en
ça,
ajoutent.
ça arrive souvent. Ça arrive souvent dans la version française, qui est les petits trucs comme.
Non mais ça arrive aussi beaucoup en version originale, mais là il n'y en avait pas, ils en ajoutent, c'est assez étrange.
D'accord. Bah voilà. Donc
Voilà
oui,
le.
bah c'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu. Elle aurait pu le dire. D'ailleurs, ça aurait pu
Ben
être
oui, donc
traduit
c'est
par
pas
ça.
du tout une insulte, ni une vulgarité quelconque.
Ouais.
Donc là, je comprends pas trop.
Et donc voilà. Donc c'est clairement un clin d'œil
Bah.
à l'histoire
Infinite
de
Crisis.
Superboy,
Voilà.
voilà. Superboy qui frappe donc le mur des qui brise le mur des réalités dans Final Crisis.
Et oui, effectivement, c'est le truc le plus stupide que j'ai entendu moi aussi. Je ne me remets jamais, je ne me remettrai jamais de cette explication. Jamais.
Donc là, Slot lance un petit peu un pic à ADC en même temps, mais enfin
Ouais,
c'est
mais
très drôle.
c'est de bonne guerre, quoi. C'est pas méchant. Voilà, puis
Ouais,
ça fait
très
rire,
bien.
ça fait rire, parce que finalement, ceux qui ne connaissent pas verront, comprendront pas la référence, ceux qui connaissent vont bien rigoler, parce que franchement, qui a trouvé cette explication tenant la route? Franchement.
Ouais, tout à
Si
fait.
vous, auditeurs, vous trouvez que cette explication tient la route, dites-le nous, quoi.
Enfin bon, il y a aussi l'explication du retour de Cap maintenant, hein, chez Marvel, qui est complètement absurde.
Oui, non, mais enfin, je veux dire, voilà, le coup de poing de la réalité. Oh, je brise la
Ouais.
réalité avec un poing. Je suis
Ouais,
tellement fort.
non, c'est vrai. C'est vrai. Mais
Et
de
en
toute
même temps,
façon,
je
maintenant,
ressuscite des personnages.
après, ils ont beaucoup joué sur le côté, justement, complètement absurde de Superboy Prime dans toutes les histoires. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. L'épisode, bah, on va pas révéler comment ils arrivent à terminer la bagarre.
Non, mais non, c'est vraiment, vraiment très, très bien.
C'est du très bon. Et puis
Loki
il
a
se
une fois
passe
de plus
aussi.
un rôle à jouer encore là-dedans, hein, quand même.
Oui. Et puis surtout, ça se termine sur encore un petit cliffhanger quand même.
Ouais. Il y a quand même une chose assez intéressante qui se passe dans l'épisode par rapport à Jocasta. Elle se retrouve possédée par Ultron.
En plus, oui. Bah oui, c'est ça en plus, oui. Il y a cette espèce d'intrigue aussi avec Ultron.
Donc Slot nous place une autre intrigue tout de suite là et il prépare toujours ses intrigues, un ou deux arcs à l'avance.
Oui, bah comme ça se faisait avant en fait.
Ouais,
C'est pour ça que je dis
exactement.
c'est un ton très classique, c'est
C'est vraiment
Avengers là, parce que
à la old school, quoi.
ouais, là old school, ouais. C'est très bien, moi j'aime beaucoup ce côté-là.
Dommage que cette série s'arrête.
C'est mon côté vieux con qui parle.
Bah le mien aussi alors.
Voilà. Des vieux cons de environ 25 ans, on va dire.
Ouais, un peu plus quand même.
Non mais on va faire une moyenne, on va arrondir.
T'arrondis vraiment à l'inférieur alors.
Ouais, il n'y a tant qu'à faire.
On va passer à l'épisode suivant, donc ouais, encore une fois un très très bon épisode. Déjà, on est à la moitié du mag et on a eu deux très bons épisodes. On continue avec le Hulk numéro 18, scénario comme toujours de Jeff Loeb, dessin de Wells Portacio cette fois-ci, qui vient faire un petit passage chez Thor, chez Hulk,
Et
pardon.
qui est plutôt réussi d'ailleurs, si je
Oui,
peux me permettre.
qui est plutôt réussi, ouais, c'est
Plutôt
pas.
sympa, et à un moment il y a le dessin de le portrait au fait de Betty Ross
Ouais, très très beau.
que j'ai trouvé très 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 sexy.
Et à l'ancrage, on a Danny Mickey. Voilà, comme souvent sont les gens de chez Image qui reviennent faire un tour chez Marvel. Bah, c'est une grosse analyse psychologique de Sunson dans cet épisode.
Ouais. Ça change totalement, je pense que tu seras d'accord, des épisodes
Ouais.
précédents de Jeff Loeb sur Hulk.
Ouais, mais je me suis un peu fait chier, quand même.
Ah bon? D'accord.
Honnêtement, ouais. J'ai trouvé super long à lire. Je me suis un peu ennuyé parce que j'ai senti venir la fin, mais dès la deuxième page.
Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai.
Totalement
Oui, non.
senti venir la fin.
Ouais. Oui, bien sûr.
Donc c'est un peu ça qui m'a gêné parce que je m'y suis attendu et j'espérais qu'ils prennent une autre route et en fait non. Donc
Oui. Mais en même temps, moi, enfin, je sais pas, mais avant, j'en avais rien à faire de Samson. Et là, cet épisode lui donne vraiment une bonne épaisseur, quoi, une bonne dimension. Je sais pas. Moi, j'ai envie vraiment de savoir ce qu'il va faire, quoi.
Ouais, mais enfin moi personnellement je m'en fous toujours autant de Samson après cet épisode. Ben, en fait, en même temps, si tu veux, c'est je voudrais pas trop révéler la fin, mais c'est ce côté un peu trop classique par rapport à la mythologie de Hulk qui me gêne. Si tu vois ce que
Ouais.
je veux dire.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire,
Pour
ouais.
ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est pour ça que j'essaye de pas trop en parler, parce que vous voyez par vous-même, ceux qui l'ont lu, je pense, comprendront. C'est vraiment un thème récurrent chez Hulk, et ce serait bien qu'il sorte des sentiers battus. Ça aurait été bien, disons.
Ouais. Non, non, je vois ce que tu veux dire, mais bon. Enfin, voilà. À voir quand même, quoi. Ça change un petit peu du Hulk rouge, des grosses bastons, de Hulk va frapper machin truc. Enfin, tu
Et
vois, c'était vraiment un
mine de
épisode.
rien, je ne comprends toujours pas son pétage de plomb à Samson. Je ne comprends pas pourquoi il a pété les plombs d'un coup. Bon
Ah
alors
oui,
j'ai
bah
peut-être
ça
raté
interroge.
quelque chose.
Non, mais il y a peut-être aussi un indice à ça à la fin aussi. Enfin, tu l'as toute fin.
Ouais, peut-être.
Bah
Je
oui.
sais pas.
Ce personnage-là qui, voilà, qui est peut-être pas étranger à tout ça. Et puis non, non, puis même. Enfin, ça, les dialogues. Enfin, c'était autre chose que les épisodes précédents, quoi.
C'est sûr, c'est sûr. Là, Loeb nous a vraiment pondu un épisode de dialogue, un épisode introspectif, en tout cas sur ce personnage-là. C'est vrai que ça nous change des gros épisodes de baston. Mais ces derniers temps, Hulk était quand même déjà à un meilleur niveau que les tout premiers épisodes. Donc voilà.
Mais oui, non, mais enfin voilà. Non, mais ça prouve quand même que Lob peut encore écrire des trucs un peu plus
Bon,
poussés et un peu plus.
l'homme
Enfin
n'est pas
voilà, quoi. Il est.
complètement fini.
Mais non, mais il a quand même une plume, quoi. Tu vois, mine de rien, il a toujours. Quand tu vois, quand il se sort un petit peu les doigts du cul. Et ben
Oui,
voilà.
ça peut paraître méchant, mais c'est vrai que bon, quand on compare avec le début de la série, c'est vrai, on a vraiment passé à un autre niveau là, clairement. Ça fait
Donc
déjà quelques épisodes, hein. Le dernier arc était vraiment pas mal. On verra bien.
on espère que ça va continuer, quoi.
Oui, c'est ce qu'il faut espérer. Donc la suite, c'est Fall of the Hulks.
Voilà. Bon, on en reparle très vite.
Dernier épisode du mag, c'est le Avengers Initiative numéro 31. Scénario est de Christos Engage et dessin de Rafa Sandoval et l'ancrage de Roger Bonnet. Grosso modo, là, c'est pareil, c'est un épisode plus calme que nous a fait Gage cette fois-ci. Pas de baston. Vraiment, il essaye de clore quelques intrigues. On sent que Siege arrive et qu'on prépare quelque chose. D'ailleurs, cet épisode est un tie-in à Siege The Cabal. Épisode qu'on aura, je crois, le mois prochain, en français.
Et oui, un épisode plus calme, mais quand même très dense, très long à lire.
Et très important aussi pour la suite, je pense. Puisque Taskmaster a une promotion. Enfin, en tout
Voilà,
cas.
non mais enfin c'est surtout, oui, bah voilà, c'est ça, c'est vraiment un épisode centré sur Taskmaster en fait.
Ah, pas que, puisqu'on a quand même des bons passages sur Avengers Resistance, notamment sur Tigra, qui explique pourquoi elle continue. Alors je sais plus comment elle s'appelle cette fille-là, celle qui sort avec Justice, enfin qui sortait.
C'est pas Anol?
Je sais plus son nom.
Je sais plus.
Et elle
Si,
lui
je crois que c'est.
explique que justement, elle va continuer à traquer les gens de The Hood qui l'ont torturée, et que si elle peut mettre la main sur The Hood, elle le fera. On a aussi un petit peu la réaction de Constrictor face au fait qu'il ait découvert que sa copine était une taupe
Oui,
pour
Rachel.
Avengers Resistance, donc Diamondback. Donc voilà, enfin, il n'y a pas que Taskmaster, même si c'est quand même lui le principal personnage de cette histoire, effectivement.
Ouais, en tout cas, ça le rend très sympathique.
Ouais, l'épisode m'a vachement fait penser à l'épisode, enfin au demi-épisode qu'on a vu sur Johnny Guitar, notamment
Oui.
avec cette fin où
Ouais.
Taskmaster envoie une lettre à Constrictor.
Ouais. Non, non, mais franchement, c'est un épisode vraiment plein de. Enfin, quand je dis plein de bons sentiments, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est vraiment un épisode, voilà, qui rend vraiment un personnage en apparence, bah, pas terrible, quoi. Enfin, vraiment plutôt fourbe. On a un mec très sympathique.
Ouais, on a de la peine pour lui à la fin, quand même.
Bah oui. Et donc c'est quand même un tour de force assez incroyable. Et bah c'est toujours très bon.
Ouais, non, c'est vraiment bien. Donc là, franchement, à Marvel Heroes, encore une fois, très très bon. Moi, personnellement, je préfère Marvel Heroes, en tout cas le contenu de Marvel Heroes, au contenu de Marvel Icons, depuis
Ah
déjà plusieurs mois.
oui, bah quand même, oui, bah et puis surtout là, quand
Ce
même,
qui
il y
n'était
avait.
pas forcément le cas
S'il y
avant.
avait pas eu, s'il y avait pas eu au fait dans Marvel Icons cette espèce de redite par Bendis, j'aurais préféré Marvel Icons, pas à Marvel Heroes, mais dans l'ensemble, j'aurais bien aimé aussi, quoi, tu vois.
Moi,
Et
ça
là, il y
fait
a.
plusieurs mois hein, quand même que Marvel Heroes est nettement au-dessus, je trouve, que Marvel Icons.
Oui. Bah, il y a plus de. Je sais pas, il y a plus de choses intéressantes.
Et
Voilà.
ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait pas Fantastic Four, qu'on a remonté le niveau dans Marvel Icons.
Oui.
Normal, avec
Fantastique.
deux épisodes doubles.
Ouais, et puis on vient de commencer en plus Hickman, donc c'est con, on n'a eu qu'un épisode, va falloir attendre 2 mois pour avoir le second.
Dommage.
Dommage.
Et c'est tout pour le bloc Avengers. De cette fois-ci. On va maintenant s'attaquer au bloc X-Men. Et c'est ce qui va d'ailleurs terminer notre podcast de cette quinzaine. On commence avec le X-Men numéro 164. Les deux premiers épisodes du mag, ce sont les Uncanny X-Men 517 et 518. Scénario toujours de Matt Fraction, dessin de Greg Land et ancrage de Jay Layston pour le premier. Et le 518, et les dessins sont de Terry Dodson et Rachel Dodson à l'ancrage.
Voilà.
Donc le premier épisode, c'est bah, la suite de cette attaque des Predators. Des Predators X, l'origine.
Ouais, Predator X, donc ils avaient du mal à en battre un, et là, bah, ils sont 5, 6 même, je crois.
6, ouais.
Alors, après 2 épisodes où c'était vachement de, quand même d'introspection et de dialogue, là, c'est vraiment de l'action.
C'est de l'action, mais alors c'est de l'action vraiment différente, je trouve, par rapport à d'habitude chez les X-Men. On a vachement stratégie, on voit un petit groupe faire un truc, un petit groupe faire un autre truc. Enfin, j'ai vraiment une impression de baston différente par rapport à des bastons de X-Men d'habitude. Je sais pas si t'as fait le même coup.
Non, tout à fait. Non, mais moi j'ai été vraiment séduit par cette baston. C'est-à-dire qu'il y a une baston, par exemple, dans Captain America Reborn, qui est longue et qui est chiante, hein, faut dire. Voilà, mais il n'y a rien de très réfléchi, c'est des gros coups comme ça, sans queue ni tête. Et là vraiment, il y a toute une réflexion pour arriver à battre l'adversaire. On a l'impression de voir un petit peu une baston dans un manga, tu sais.
Ouais.
Enfin, tu vois, limite, tu vois, c'était étudié, quoi. La baston était étudiée. Je vais faire cette technique-là. Le coup de Malicia qui absorbe le pouvoir
Alors,
d'un tel.
Rogue est ultra puissante. Mais c'est abusé tellement elle est puissante.
Oui, mais d'un autre côté, c'est normal. Parce que si on nous disait qu'elle était pas puissante alors que maintenant elle peut absorber n'importe quel pouvoir, voilà,
Ah ouais,
ce
mais
serait
alors,
étrange.
là, c'est... Enfin, je veux dire, c'est l'équivalent d'un Superman, quoi.
Ouais, mais en même temps, voilà, bah de toute façon, elle a son propre titre, peut-on dire, puisque Legacy, c'est essentiellement sur Rogue. Donc ça va vraiment devenir une figure pivot, on va dire, des X-Men, quoi. C'est vraiment un personnage super important maintenant.
La seule condition, c'est que plein de mutants la touchent pour qu'elle puisse absorber les pouvoirs. Mais
D'ailleurs, ça m'a fait rire quand même, cette touchez-moi tous.
venant d'un prof, on ne sait jamais.
Oui, non, mais là en français, il y avait quand même quelques dialogues qui étaient assez tendancieux, enfin même en anglais d'ailleurs, mais je
Oui,
veux dire.
je confirme.
Parce que là, ils sont tous autour et il fait, allez, touchez-moi tous. Voilà. Mais
Il y a eu une scène, notamment avec Iceman, Colossus et je ne sais plus qui était le troisième, où ils font exploser le Predator X et tu les vois s'en aller, t'as l'impression de voir une scène de film avec une grosse explosion dans le fond.
ouais.
Moi, j'ai trouvé ça presque un peu abusé, quand même. C'est un peu forcé comme plan, mais c'était drôle, quoi.
Oui, mais enfin de toute façon, faut dire que ça fait quand même quelques mois maintenant que j'aime beaucoup Uncanny X-Men d'un seul coup,
Ah,
alors qu'avant je m'en foutais.
ça s'améliore, franchement.
Oui. Donc là, vraiment un épisode sympa, de l'action, mais bien bien construit, quoi.
Ouais, ça va, franchement, ouais, j'ai été surpris agréablement, une fois de plus. Donc, j'espère que ça va rester comme ça.
Bon, par contre, Magneto finalement ne fait pas grand-chose.
Ouais, mais bon, il vient juste de récupérer ses pouvoirs, c'est compréhensible. Au moins, il est pas trop puissant d'un coup, ce qui est pas plus mal.
Oui, puis il observe.
On a quand même un truc important qui se passe, c'est la Phoenix Force qui quitte les Queues.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Bon, alors moi personnellement, comme j'avais déconnecté des X-Men pendant un bon moment, je ne savais même pas qu'ils avaient la Phoenix Force.
Il y avait une mini-série au fait avec les Cuckoos, je crois, il y a longtemps. C'était pas sorti dans Astonishing X-Men, aux alentours des numéros 15-16 en français, donc il y a un
D'accord.
bon paquet de temps. Et je crois que c'était dessiné par Greg Land d'ailleurs. Et voilà. Et je sais plus où elle absorbait, je crois, la force du Phénix. Et il y avait deux Cuckoos qui mouraient aussi, parce qu'avant elles étaient cinq, hein,
Ouais, elles
rappelle-toi.
étaient cinq, oui, à tout
Oui,
début.
donc je crois qu'il y en avait deux qui ressuscitaient au fait à les affronter. Elles étaient possédées par je ne sais plus qui. Enfin bon. C'était, attends, je crois que ça s'appelait Phoenix quelque chose. Phoenix Headsong, la mini-série.
D'accord, je ne connaissais pas.
Le chant du Phoenix, ou je sais pas quoi. Enfin voilà, bon.
D'accord, mais donc on verra les conséquences que ça va avoir sur ces
Ben
personnages-là.
oui, très très bientôt. Et puis alors, d'autres conséquences sur un autre personnage, pour l'épisode suivant, du coup.
Donc là déjà on change de style puisque c'est un retour de Dodson, enfin du couple Dodson. Et bah là ils vont essayer de sortir The Void, enfin en tout cas la partie de The Void de Emma Frost, puisque sans les Cuckoos, ils n'ont plus de télépathe. Donc il leur faut absolument un télépathe. Je comprends pas, Xavier est là, il pourrait s'en servir. Bah non, apparemment non.
Ouais, étrange.
J'ai pas compris là. Franchement, déjà l'épisode a commencé d'une drôle de façon, puisqu'il me laisse une grosse interrogation, enfin il y a Xavier qui s'en sert. C'est quand même censé être le télépathe le plus balèze, non?
Ouais. Mais enfin, je sais pas. Apparemment, ils veulent pas de son aide, quoi. Vraiment, tout le monde le renie. C'est voilà. C'est Xavier à nouveau persona non grata, quoi. Limite pire que Magneto.
Donc, bah, ce sont Xavier, Psylocke et Scott Summers, enfin Cyclope, qui vont essayer de sortir The Void de la tête d'Emma. Bah, ouais, je sais pas, cet épisode j'ai trouvé un peu moins bon quand même. Moi je me suis un peu plus ennuyé. De son côté, on a Beast qui parle de ses doutes à Iceman.
Ouais, c'est à la limite c'était la scène la plus intéressante.
Et Iceman n'a quasiment aucune réaction. En fait, Beast est vraiment l'incompris des X-Men en ce moment.
Bah, Iceman et reste froid.
Oh! Tu aurais pu même dire qu'il reste de glace.
Il reste de glace.
Mais
Mais non, mais l'épisode est quand même sympa, mais la fin m'a fait penser un petit peu, si tu vois ce que je veux dire, à un épisode avec Jericho dans Teen Titans, quoi.
ah oui, complètement.
Voilà. C'est le même procédé narratif, c'est le même twist, le même coup de théâtre à la fin. Donc bon.
Alors, je sais pas si ça a été respecté en version française, mais il y a un truc super bizarre
Vas-y, oui,
dans la
dis-moi.
façon de d'écrire. Ils s'appellent tous par leur nom et leur prénom à la fin. Donc, je sais pas. Un moment, dans la tête d'Emma, Scott crie « Emma Frost, reviens ici !» Ou je sais pas quoi. Enfin, mais d'où...
Ah, non, non, je crois pas.
Il l'appelle Emma Frost et elle l'appelle Scott Summers.
Ah non, je crois pas,
Enfin,
non. Je crois
mais...
qu'en français, ça a été vraiment traduit par Scott et Emma.
C'est vraiment bizarre, quoi. Enfin, je veux dire, alors déjà, d'une des personnages, surtout pour, vu qu'ils sont ensemble, m'étonnerait qu'ils s'appellent par prénom plus nom. Et puis bon, même les lecteurs les connaissent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une drôle de façon de faire.
Oui, bah c'est peut-être parce qu'ils sont dans la tête de, enfin il y a peut-être The Void ou je
Ah,
sais pas
même
quoi.
sur la dernière case, quoi. Même sur la dernière case, elle dit ah, Scott Summers. Mais pourquoi elle dit Scott Summers? Je veux dire, c'est Xavier et Psylocke en face. Hein, s'ils connaissent pas Scott, enfin, je veux dire, voilà. C'est
Oui, non,
vraiment super bizarre.
j'ai pas l'impression. En tout cas, ça m'a pas marqué, donc j'ai pas l'impression qu'en français ils aient gardé ça.
Moi, je sais pas, drôle de façon de faire. Donc là, ça m'a un peu surpris. Bon,
Bon,
bah,
enfin.
apparemment, ça n'a pas été gardé. C'est pas plus mal. Parce que c'était vraiment pourri. On va passer à la suite. Dark X-Men numéro 2 sur 5. Scénario de Paul Cornell, dessin de Leonard Kirk et ancrage de Jay Layston. Donc, la révélation du mois dernier, c'est que c'était X-Man qui était de retour.
Oui.
Enfin, il ne peut pas rester très longtemps. Et il prend Mystique, qui du coup a l'apparence de Jean Grey, pour sa propre mère.
Ouais.
Voyant Dark Beast, il le fait dégager en disant « Attention, il va te faire un coup. C'est pas le vrai Beast, hein, fais gaffe. » Du coup, Norman Osborn, apprenant ça, décide de se débarrasser d'X-Man parce que c'est un personnage trop puissant, donc trop dangereux.
Enfin, de s'en débarrasser, de s'en servir comme pile, on va dire.
Oui, pas pour le mettre dans la machine Oméga, mais enfin...
ADD.
essayer de l'utiliser, mais surtout de le faire disparaître pour pas qu'il le gêne.
Oui.
Parce qu'il se doute bien que ça va être une épine dans son pied.
Oui, comme tout le monde d'ailleurs, hein, comme tous les super-héros en fait. Voilà. Donc là, c'est X-Men et puis.
Donc, vu qu'il est toujours un petit peu perdu dans la tête des gens et dans un monde psychique bizarre, les Dark X-Men vont aller dans un centre psy spécial du Hammer, où il y a que des gens genre qui font partie d'une secte en grande robe. Et qui forme un cerveau.
Oui,
J'ai.
oui, oui,
C'est...
oui.
Alors ça, c'était vraiment étrange. Franchement, c'était
C'était vraiment étrange. C'était même.
super barré.
Oui. Puis le côté avec Dark Beast qui se barre avec la nana, j'ai trouvé ça même comique.
Ah, c'est à la limite d'être malsain quand même.
Oui. Enfin, c'est. Oui. Surtout après. Enfin, voilà. Vu ce qui se passe, c'est très glauque. Mais j'ai trouvé ça comique. Le fait qu'il se barre et tu sais derrière les autres en disant venez mademoiselle. Enfin, tu vois, ça m'a fait rire quoi. Parce que de toute façon, je savais très bien ce qu'il allait en faire.
Ah, oh bah oui, de toute
Enfin,
façon, on connaît Dark Beast.
oui, voilà.
Le
Donc,
boucher.
oui, puis, le boucher Niort, un petit peu comme toi.
Je savais que ça reviendrait.
Voilà. Et donc, bon, bah, enfin, un épisode sympa, sans plus, quoi.
Bah, c'est surtout le final qui est intéressant. Quand X-Man apprend un petit peu tout ce qui s'est passé. Il avait plus de mémoire. En fait, il savait pas ce qui s'était passé puisqu'il était sur un autre plan. Il
Oui,
avait
et
aucune
ça
idée
fait
de ce qui
longtemps.
s'était passé depuis le moment où il était mort, en fait.
Oui.
Et donc là, il voit Civil War, il voit Secret Invasion, il voit tout, quoi. Et il voit comment le monde a tourné. Et à
Et
mon
pour
avis,
quelqu'un,
il y a quelqu'un qui a du souci à se faire, là.
oui, pour quelqu'un qui vient de l'ère d'Apocalypse, voir que le monde a tourné avec la Civil War, Secret Invasion, World War Hulk, etc. C'est vrai que ça doit faire quand même un choc.
Donc je pense que Norman doit se faire des cheveux. Ah, ah.
Oui, bah il a de quoi faire quand même, hein.
Voilà, donc ouais, bon bah, c'est toujours mieux que ce à quoi je m'attendais, mais bon, je suis pas conquis, hein, personnellement.
Oui, non, non, voilà, c'est passable, dirons-nous. Dire que ça va durer 5 mois, c'est, enfin, ouais, ça risque d'être un peu longué, hein.
On verra bien les conséquences de cette mini-série, si jamais conséquences il y a.
Ouais, peut-être une nouvelle série X-Men.
Ouais, ou pas. Dernier épisode, en fait, c'est deux mini-épisodes qui viennent de X Necrochat, un one-shot qui est censé lancer, enfin qui est censé être la première partie du prochain crossover mutant. Donc on a deux mini-épisodes qui se passent, enfin ce n'est pas l'histoire principale. La première, elle est écrite par Zeb Wells avec au dessin Ibrahim Robertson. Et donc c'est la résurrection de Cypher.
Oui, le fameux Cypher, qui
D'où Ramsey,
que
en fait, de son.
oui, que Warlock
Allez voir.
découvrait la tombe ouverte de Duke Ramsay à la fin du dernier épisode de New Mutants, et là on voit où est-ce qu'il est parti au fait.
Voilà, donc il a été ressuscité par Eli Bard. Et j'aime beaucoup la façon dont c'est fait, en fait, avec le langage binaire.
Oh, je trouve ça chiant, mon
Ah
Dieu.
ouais?
Alors je sais, ouais, c'est chiant à lire. Ah.
Ouais, enfin, t'es
Enfin,
pas
je sais.
obligé de lire tous les 1 et les 0 non plus. Hein.
Non.
Tu les as tous lus, je comprends.
Non, mais c'est chiant à lire parce que j'ai du mal à voir. En fait, je sais pas. Hein, c'était peut-être différent en anglais, mais en français, en tout cas, la couleur était la même et voir les mots entre les 1 et les 0, c'était chiant, quoi. C'était
Ah non,
chiant.
c'était en anglais, c'était sur fond noir, écrit en blanc avec les lettres en rouge.
Ah oui, parce que là, c'était de la même couleur le lettrage.
Ouais, forcément.
Donc c'était
Forcément.
atroce.
Mais on sent l'interrogation sur le langage, sur tout ça. Enfin, on sent que le personnage est un peu perdu, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça vachement bien fait.
Oui, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était le gag avec, tu sais, où il vanne l'autre là.
Et qui comprend que c'est du sarcasme.
Oui, voilà, il comprend que c'est du
Enfin,
sarcasme
il
et
analyse, en fait.
oui, voilà, il analyse tout. Non, mais c'était, oui, bah, à voir où ça va, puisque là, franchement, c'est juste pour dire qu'il est ressuscité, quoi.
Oui, enfin, il n'y a pas que ça. Il amène tous les aliens ressuscités sur Utopia. Et il leur
Oui,
ouvre
c'est
une
vrai.
porte. Donc, voilà, c'est... Et lui, de son côté, va aller s'occuper d'autre chose.
Oui, d'aller
C'est...
voir une ancienne amie.
Voilà. Donc ça, c'est à suivre dans New Mutants numéro 6. Je
Ok.
ferai ma petite complainte après, puisque j'ai quelque chose à gueuler.
Voilà.
Et oui, je me refais pas quand même. Je peux pas. C'est trop tard, je suis trop vieux pour ça. La deuxième histoire, c'est elle est écrite par Mike Carey et au dessin, on a Lawrence Campbell. Et donc là, c'est Séléné qui ressuscite Destiny. Enfin, Eli Bard qui a ressuscité Destiny pour Séléné. Puisque c'est Séléné qui est derrière toute cette invasion de morts-vivants.
Oui, voilà, tout simplement.
Et donc elle l'oblige un petit peu à lui révéler son futur, savoir si son plan va bien se passer, etc. Puis bah Destiny va aller contacter quelqu'un pour la prévenir et la sauve et lui transmet un message.
Oui, et puis après, on sent qu'elle regrette de lui avoir transmis ce message.
Alors est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle s'est trompée dans le message? Je sais pas. Donc tout ça, par contre, cette histoire est à suivre dans X-Men Legacy numéro 231.
Il a fait le répondeur, quoi, en fait.
Donc là, ma petite complainte, c'est que New Mutants 6 et X-Men Legacy numéro 231 sont normalement les prochains épisodes qu'on aura en français de ces deux séries.
Oui.
Or, l'histoire principale, que l'on n'a pas eue hein, ici, elle est à suivre dans X-Force 21. Donc là, on va avoir un gros décalage. C'est-à-dire que s'ils commencent à nous publier New Mutants et X-Men Legacy, X-Necrochat n'est pas encore commencé chez X-Force.
D'accord, ouais, je vois ce que tu veux
On
dire.
a un
Qui se
gros
situe avant?
souci. Voilà, on a un gros souci, puisque c'est censé se passer en même temps.
Ou bien alors, quid de Legacy et de New Mutants, ah bah je sais pas.
Bah
Ils
ouais,
vont
puisque
peut-être nous
là
mettre que du Uncanny alors.
on est à X-Men, on est à X-Force numéro 19 dans Asto, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà.
C'est à partir duquel tu me dis?
21.
Oui, bah peut-être que le mois prochain il y aura que du Uncanny dans X-Men alors.
Peut-être, ouais. Donc bon. Je sais pas, il y a un petit souci de publication là, encore une fois.
Faut voir comment il se débrouille. Comment il se dépatouille. Voilà. Pour pas dire un truc plus grossier.
Ok.
Bon, mais...
Bon, un bon mag X-Men encore une fois, donc
Oui, bah oui, non, mais quand même très divertissant. Et voilà. Non, mais globalement,
deux mois de
tout ce qui est
suite, deux mois de
divertissant.
suite, c'est pas mal quand même.
Oui, bah oui, tout à fait. Oui, c'est rare en plus
Ça
cette
faisait
année.
combien de temps qu'on n'avait pas eu deux mois de suite un bon X-Men?
Bah ça faisait longtemps. Parce que franchement, le mois d'avant, par exemple, avec comment s'appelait ce méchant là, Amplate. C'était pas terrible, c'était chiant,
Ah
franchement.
ouais, sur dans Legacy, ouais, non, c'était pas top.
C'était chiant. Voilà, donc bon, bah, ça faisait longtemps et voilà, bah vive X-Men. En ce moment, c'est tellement déprimant parfois. Enfin bon, du côté de chez Marvel que voilà.
On va terminer nos reviews de cette quinzaine avec le Astonishing X-Men numéro 64.
Oui. D'ailleurs, on peut peut-être préciser que vous l'avez vu, donc pas de Spider-Man.
Oui, on a décidé que c'était pas la peine.
Non, c'était pas la peine. Il est, je, oui. Enfin, franchement, il est très passable ce mois-ci. Pas de Wolverine, mais peut-être ferai-je un Unspoken. Au fait, pour résumer les derniers Wolverine
Oui, puisque
parus en français.
dans ce numéro 200, c'était l'épisode 900 de Wolverine qui est franchement chiant.
Voilà. Donc bon, on reviendra sur les Wolverine, mais peut-être sous un autre format, on va dire. Et puis qu'est-ce qu'on n'a pas fait
Pas de
d'autre?
Dark Reign non plus.
Pas de Dark Reign. Ah oui, le Dark Reign était pas terrible, sauf l'épisode des Secret Warriors, voilà, avec Ares notamment et Phobos. C'était pas trop mal, mais sinon le reste est franchement très moyen. Voilà. Donc ben on
Oui, et puis on
repartons.
avait prévu de faire Sculpt
Ah
pour
oui,
cet épisode, mais
Sculpt.
on ne l'a pas trouvé à temps dans les boutiques françaises, donc bah, ce sera
Ben
pour le prochain.
je sais pas s'il est sorti ou
Il était
s'il est en retard.
censé pas sortir le 8, et là on enregistre, on est le 11, et justement on avait prévu pour ce numéro-là, mais bon, bah, vu qu'on ne l'a pas trouvé, on le fera pour le prochain.
Voilà.
Puisqu'on avait tellement aimé le premier tome que voilà, on pouvait pas passer à côté du deuxième, on voulait le faire cette fois-ci, mais dommage malheureusement.
Non, c'est pas ironique, hein. On a vraiment aimé.
Non, non, on avait vraiment adoré. Enfin, moi personnellement, j'ai vraiment adoré le premier tome et j'ai hâte de lire la suite, quoi. Parce que je l'ai en plus depuis un moment, le TPBVO, et bon, j'attendais pour pas le lire d'avance et le refaire une deuxième lecture un peu plus blasée. Voilà, donc j'attendais, et là donc je suis encore obligé d'attendre, je ronge mon frein. C'est terrible.
Voilà, mange ton frein Steve et partons sur Asto.
Donc Astonishing X-Men numéro 64. Premier épisode, c'est le Astonishing X-Men numéro 31.
Oh, extraordinaire, ils reviennent.
Le retour de la série Astonishing X-Men, série éponyme quand même, qu'on n'avait
Mais
pas
parce
vu
que
depuis
la
6
dernière
mois.
partie, c'était il y a très très longtemps.
Ouais, ça fait au moins 6 mois, sinon plus. Le scénario est de Warren Ellis, toujours hein, sur la série Astonishing X-Men. Les dessins sont de Phil Jimenez, qui cette fois-ci va remplacer Simone Bianchi.
Attends, vas-y, refais le meuleux là, Phil Jimenez.
Phil Jimenez.
C'est
À
encore
l'espagnol.
mieux la deuxième fois d'ailleurs.
À
Peut-être une
l'espagnol.
troisième.
Jimenez. Non mais c'est faut voir parce que j'écarte les bras et tout, attention. Je suis.
Y a bon, d'accord, t'écartes tes bras, d'accord, ok, d'accord. C'est bon à savoir. Vous pourrez voir donc Steve dire ça au Lille Comics Festival avec la même gestuelle.
Et donc à l'ancrage, pardon, j'allais dire une bêtise, Andy Lanning, qui fait une
Ah oui.
petite escapade du Marvel Universe.
Oui, mais en tout cas,
Puisque
du côté graphique, c'est très bien, je trouve,
oui,
quand même.
il était ancreur au départ, Andy
Oui.
Lanning.
Mais là, c'est particulièrement réussi d'un point de vue graphique, cet épisode. Par contre, le scénario, bon, vas-y, hein.
Eh bien, ça commence sur la jambrande, hein, que Warren Ellis a l'air de bien aimer.
Oui, mais qui est quand même un personnage récurrent de la série Asto, en fait.
Bah oui, parce que c'était Whedon qui l'avait introduite dans Astonishing X-Men au début. Voilà. Qui en fait une mission sur une planète. Alors, je sais pas si tu as lu un petit peu les écrans d'ordinateur que l'on voit sur les premières pages. C'est une espèce de
Non.
planète qui est apparue pas loin de la Terre d'un coup.
Ah non, non, j'ai pas fait gaffe, non.
Qui est vraiment pas loin de la Terre, et donc ils vont dessus, ils essayent de tout détruire, et on voit le retour des Broods.
Oui, des broods. Des
Donc
broods.
les fameux extraterrestres très
À
chers aux
tête
mutants.
d'alien.
Ouais.
Ah, oui. Les copies d'aliens, quoi, en
Oui,
fait.
c'est clair.
Mais
Enfin, les
non,
copies,
non,
non, puisque
non, non.
ils étaient avant. Ils étaient
Ils
nés
étaient
dans
avant,
la
oui. Et
dimension.
puis j'avais lu un truc dans Comic Box qui racontait notamment que James Cameron s'était inspiré pour beaucoup de ses films de, en fait, de personnages de des comics et de la bande dessinée américaine. Et donc bon, on pouvait voir une certaine filiation entre la tête d'Alien, notamment de sa reine Alien dans Alien 2, et puis les Broods.
Oui,
Bref.
puisque les Broods sont apparus X-Men 105, 150, 160, quelque chose comme ça.
Oui. Et la reine Alien avait effectivement plus une tête de Brood que dans le premier Alien où il y a une tête toute longue.
Donc, bon, on va repartir.
Eh bien, il va falloir repartir. Donc, alors, on va
En
résumer très
fait,
vite, hein, de toute façon.
là, le tout explose et la jambrande se prend bien sûr un débris dans son vaisseau et elle est obligée de s'éjecter de son vaisseau dans un petit escape pod, le truc classique, et bien sûr, elle peut pas rentrer sur Terre de façon correcte, elle va s'écraser. Donc, qui c'est qu'on appelle pour la sauver? Les X-Men, puisque ce
Les
sont les plus
Ghostbusters.
proches.
Non, oui, les X-Men.
Et donc, c'est en gros, c'est une mission de sauvetage de l'agent Brood. De l'agent Brand, pardon.
Ah bah t'as peut-être fait un lapsus révélateur parce que qui te dit
Mais moi
qu'elle
c'est
n'a
ce que
pas un
je
autre nom?
m'attendais quoi. Je m'attendais ce que en fait le truc qui lui a éclaté son aile, je m'attendais à ce que ce soit un Brood qui s'accroche. Enfin tu sais le truc classique de l'alien quoi.
Oui.
Je
Mais au
m'attendais à
fait,
ça.
ça part totalement sur autre chose.
Ouais ça part. Mais déjà ça commence vraiment façon space opéra.
Oui.
Après donc on a les X-Men qui interviennent, mais je sais pas. C'est pas une histoire des X-Men pour moi ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas une histoire des X-Men.
Oh ouais, moi non, moi ça m'a pas posé de
Mais
problème.
c'est bien, enfin c'est quand même super bien. Enfin franchement, je préfère nettement ça, en tout cas cette première partie, à ce que nous avait pondu Warren Ellis au début de son run sur Astonishing X-Men.
Oui, moi je suis intrigué. C'est voilà, on va pas révéler la fin,
Ah
mais
non, la fin
alors
est surprenante.
je sais pas s'il y a un lien avec X Nick Rocha, mais non, je ne crois pas.
Non, je
C'est
pense
juste.
que c'est totalement hors continuité.
Mais néanmoins, voilà, c'est intriguant. Bon, un épisode de première partie qui prend son temps, on va dire. Par contre.
Ça prend son temps, mais bon, ça installe un bon climat, c'est une bonne histoire, donc bon, je préfère ça.
Oui.
Je préfère ça.
Oui, au moins on comprend ce qui se passe. Enfin,
Ouais,
on comprend.
à savoir qu'avec Phil Jimenez, on n'aura pas de retard. Ou en tout cas, beaucoup moins.
Ah bah si, il y en a eu un sacré aux États-Unis puisque
Ouais, il y en a eu, mais...
ils ont commencé la saga suivante avant de clôturer celle-là en fait.
Ouais, mais pas autant qu'avec Simone et Bianchi, quoi.
Ouais. Non, enfin bon, bah de toute façon en français on l'aura à mon avis à la suite puisqu'ils ont attendu que la dernière partie sorte pour tout publier au fait dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Tous les mois quoi.
Voilà,
On
donc
continue.
un bon premier épisode, c'est toujours sympa.
C'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir.
La suite, c'est X-Force numéro 18 et 19. Scénario Craig Kyle et Chris Yost, dessin de Mike Choi et Sonia Obak. Donc c'est un retour à la maison pour X-Force.
Oui.
Après être revenu du futur et avoir sauvé un petit peu les mutants qui allaient exploser, avoir sauvé Boom Boom, tout ça.
Qui avait failli faire
Boom.
voilà. Oui,
Voilà.
dernière fois.
On a pas mal de choses hein, qui se passent. On a X-23 qui est capturé. Donc ça, on l'avait vu à la fin du dernier
Ah oui, non,
épisode.
mais alors attention, attention. X-Force, je sais pas si on l'a déjà dit, mais alors là, plus encore que jamais.
Ah, c'est violent.
C'est hyper gore,
Ah, c'est
hyper violent.
crade. C'est crade. Ouais, franchement, c'est crade.
C'est limite du walk, c'est pratiquement du Walking Dead sur certaines scènes au niveau de la violence
Bah, la scène
graphique.
de torture d'X-23 est quand même assez hardcore.
Oui, à tel point que d'ailleurs la personne qui vient lui prêter main forte a envie de
Ouais,
vomir.
non, mais ouais, c'est carrément
Et non, non,
dégueulasse. Faut le dire, c'est carrément
c'est très
dégueu.
graphique. Donc d'ailleurs, faites attention quand même, parce que si vous êtes des jeunes lecteurs.
Est-ce qu'il y a pour lecteur averti dessus, d'ailleurs?
Mais je crois qu'ils le mettent partout. Oui, mais enfin voilà, il est toujours mis, mais en tout petit, tout petit. Là, franchement, sur celui-là,
Ouais, il le mérite, ouais.
honnêtement, c'est hardcore, hein.
Ouais, non, parce que là, c'est visuel, quoi. Puis en plus, les dessins de Mike Choi et de Sonia Obak sont vraiment jolis, ce qui rend la scène encore plus visuelle.
Oui, voilà, oui, c'est très très photoréaliste, on va dire. Donc
Ouais.
voilà, mais vas-y, bah continue l'intrigue qui reste pas mal, quoi.
On a aussi une explication entre Wolverine et Cyclope. Donc celle-ci, on l'attendait. Et franchement, c'est petit. C'est une toute petite explication.
Ouais, c'est tout
Moi,
petit.
je
Non, mais ça
m'attendais à
aura
ce que
sans doute.
Wolverine lui pète vraiment sa gueule, quoi.
Oui, j'espère qu'il y aura encore des répercussions et que ça va péter progressivement, tu vois.
Ah, il lui saute dessus, il le fout par terre, il lui met une petite tarte. Attends, c'est que dalle, ça.
Oui,
Je sais pas,
enfin, il
moi
le
j'aurais été...
menace avec ses griffes. Il
Ouais, j'aurais
menace.
été Wolverine, j'aurais mis un coup de griffe dans la cuisse, et après j'aurais dit, la prochaine fois, c'est pas la cuisse.
Bien alors, j'aurais tourné, tu vois, dans la cuisse avec
Du
du sel sur le.
sel sur la plaie.
Du sel sur la plaie, oui, sur la
C'est con,
griffe.
parce que comme Elixir est toujours dans le coma, pour se faire soigner, c'est dommage. Donc voilà... Ensuite, on a toujours l'intrigue la plus chiante d'X-Force depuis les premiers numéros. Enfin, en tout cas, depuis numéro 7-8. Ran et son mec,
Ah oui,
qui se
voilà.
fight avec des Frost Giants. Et alors, mais ça ne sert à rien, je ne sais absolument pas où ils veulent en venir, mais qu'est-ce que ça me saoule. Il y a une page par numéro, mais alors c'est la page de trop, quoi.
Oui, on les voit courir tout nus dans les bois et enfin poursuivis par des géants des glaces. On se demande à quoi ça sert.
Mais ouais, ça ne sert à rien. Enfin, franchement, quand on veut pas un personnage, quand on ne sait pas quoi en faire, on ne
Et
garde pas ce personnage dans cette série, on le redonne à New Mutants, parce qu'elle en fait partie, New Mutants. Sa place est avec New Mutants, elle est pas avec X-Force,
même
donc
avant, elle
elle
était dans X
dégage.
Factor, rappelle-toi.
Ouais, non, mais bon, là, elle veut pas être avec X-Factor, c'est pas grave, quoi. Peter David, on veut pas. Tant pis. Moi, pour moi, sa place, elle est dans New Mutants, dans
Non, mais
le cast original.
en plus, ça fait quelques mois, effectivement, que il y avait le truc avec l'ours, là, le truc avec Ghost Rider. On se demandait ce que ça venait foutre là-dedans, et puis maintenant, il y a ça.
Elle ne sert à rien. Elle n'a servi à rien depuis le début de la série. Elle a créé le vite fait un petit besoin dans le premier arc puisqu'il fallait qu'ils aillent la sauver des purificateurs. Et depuis, elle est toute fofolle, elle a attaqué Archangel,
Et
mais
elle est toute
c'est tout.
fofolle, elle court à poil dans la neige.
Elle n'a vraiment servi à rien depuis le début de la série. Donc, qui la dégage. qui la dégage, qui s'intéresse à autre chose.
Oui, mais c'est vrai que ça, c'est, on perd du temps pour rien. D'ailleurs, on a l'impression de lire un épisode alors qu'il y en a deux, hein, comme tu dis.
Il y en a deux, ouais, il y en a.
Puisque, ouais. Puisque au fait, il y a quand même pas mal d'action, donc ça se lit relativement vite, ces deux épisodes. Mais bon, ça reste quand même bon. Et puis, on retrouve aussi Bolivar Trask, et puis, je sais plus comment s'appelle l'autre, là.
Bastion. Bastion.
Oui, non, mais surtout, Sébastien qui est en coulisses et qui leur fait dire, au fait.
Ah oui.
Oui. Je sais plus comment s'appelle l'autre figure publique qui compte les mutants et voilà et qu'on voit aussi dans cet épisode. Mais moi j'aime bien au fait cette idée de revenir à ces personnages-là qu'on n'avait pas vu depuis les années 90. Et, bon voilà, moi j'aime bien tous ces personnages quoi.
Oui, ouais, c'est clair. On a aussi la séquence de X-Necrocha que l'on a vu dans X-Men, le début avec Destiny là, qui est reprise. On a juste la première page où Séléné demande à Destiny de dire son futur, donc on a un petit lien quand même.
Oui, ouais, tout à fait.
Voilà, et puis bah donc on a toute cette intrigue centrée sur X-23, parce que les X-Men et X-Force vont partir à la recherche d'X-23, et elle est sauvée de son côté, enfin en tout cas on essaie de l'aider sur le truc du shield là, c'est vraiment un truc du shield, on sait pas trop. Et puis bah tout par rapport à ses origines. Alors moi comme c'est un personnage que je ne connais pas beaucoup parce que j'ai pas lu les séries dans lesquelles elle est apparue au début, puis c'est pas un personnage qui m'intéresse follement, je dois dire.
Ouais.
Donc voilà, tout ce passage-là, c'est pas que c'est mauvais, ça m'emballe pas autant que quelqu'un qui adore le personnage. Voilà.
D'accord. Bah, de toute façon.
Je suis pas autant intéressé. Bon, c'est sympa quand même. Hein. Oui. Franchement, ouais. C'est sympa. Mais je suis pas super super intéressé.
On verra où ça nous mène. Mais globalement, enfin, X-Force reste quand même une série incontournable du magazine, quoi, maintenant.
Mais de toute façon, là, même la fin, elle se retrouve encore dans une position où elle est vraiment dans la merde.
Drôle de position.
Mais après, c'est fait torturer, elle est encore plus dans la merde.
Oui.
C'est comme si c'était possible. Et pourtant. Donc voilà, donc non, franchement, deux bons épisodes, hein, comme toujours, d'X-Force, et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment une série sur laquelle on peut compter.
Et malheureusement, une série qui va changer aussi, en quelques mois.
Ouais, bon, il y a encore un peu de temps avant que ça change en France.
Oui, un an, quoi. Ouais. Et puis, on termine sur le must du must.
Ouais. Dark Wolverine numéro 81. Scénario de Daniel Way et Marjorie Liu. Dessin de Giuseppe Camuncoli. Que vous pourrez retrouver au LCF.
C'était tout pourri, ton annonce. C'était tout pourri.
Giuseppe Camuncoli.
Pauvre Giuseppe Camuncoli. Je sais même plus comment il s'appelle.
Giuseppe Camuncoli.
Oui.
Vous retrouvez au LCF. Lui, et, Onofrio Catacchio à l'ancrage.
Oui. Qui ne sera pas au LCF, lui, par contre.
Ah, qui sait, peut-être.
Peut-être. Mais en tout cas, Giuseppe Camuncoli, oui, puisque Steve Lamandi sera là.
donc, Miss Marvel cherche à en savoir un peu plus sur Daken. Donc, elle le suit et ils ont un petit face-à-face autour d'une tasse de thé avec des souvenirs de Daken et Miss
Marvel. Et des spéculos aussi.
Miss Marvel qui essaye de savoir le vrai du faux de tout ça. Et qui finalement regrette peut-être un peu sa décision d'avoir voulu en savoir plus.
Voilà. Non, mais en gros, c'est vraiment ça. Le scénario, c'est une discussion avec une révélation finale, peut-être un peu inattendue.
Ouais. C'est enfin, un peu inattendue, oui et non.
Non, moi, ça m'a surpris quand même. Ça m'a surpris. Non, moi, j'ai cru, moi, Daken. Donc, voilà. Donc, un épisode.
Plus calme, mais pas inintéressant. J'ai quand même malgré tout préféré cet épisode-là à l'arc d'aventure.
Oui, moi aussi. Pas mauvais.
Et je regrette le premier arc. La série était très bien partie et pour moi elle a vachement baissé d'un coup.
Ouais, ouais. Mmh. Non, mais pas mauvais. En fait, c'est bien quand il est un petit peu opposé à ses collègues de travail, on va dire. Ouais. C'est là où c'est le plus drôle. Et à voir où ça mène, hein, puisque maintenant tout va rejoindre Siege aussi, il faut dire.
Et voilà, ils sont tous un petit peu obligés de boucler leurs intrigues assez rapidement et de manière à pouvoir faire place au dernier gros événement du Dark Reign, Siege, qui commencera le mois prochain avec l'introduction.
Ouais, qui commencera partout, en fait tous les titres seront tagués Siege, on est vraiment dans des tie-ins à Siege dès le mois prochain.
T'as failli dire des tie-ins à chier,
j'ai failli dire et en plus je pense que ça va être le cas parce qu'honnêtement, Siege, je l'ai pas lu en VO, je l'ai survolé on va dire, et je pense qu'on va se faire chier. Hein.
Bon, bah ça au moins c'est dit.
Voilà. Je pense que là pendant 4 mois,
De
Parce que
toute
ça dure
façon,
4 mois, il me semble.
si vous voulez savoir ce que va être Siege, lisez bien les dernières phrases de Avengers Initiative et vous aurez la réponse.
Voilà. Il n'y a rien de plus à savoir. Après, c'est une grosse baston à laquelle tout le monde participe pour relauncher l'univers Marvel. Donc voilà, donc tout ça pour dire que pendant 4 mois, on va quand même se bouffer des trucs qui seront pas, à mon avis, super passionnants, mais bon, on
Il y a
verra.
des grosses surprises quand même.
Ah bon, bah on verra. Bon, on verra, de toute façon, on verra. Donc, ça clôture.
Notre épisode 39e.
Oui, mais alors donc, bah quand même des. Enfin, ce qu'on a reviewé, globalement, c'était plutôt sympa.
Ah oui, non, dans l'ensemble.
Dans l'ensemble, à part qu'il y a Priborn pour toi.
Ouais, pour moi, c'est peut-être le plus décevant de tout ça.
Oui, certainement, non, mais certainement. Par rapport à l'attente qu'on pouvait en avoir, c'est certainement le plus décevant. Mais bon, un mois quand même pas trop mal. Bon, sauf ce qu'on n'a pas fait, effectivement, que on vous conseille de zapper en ce qui concerne le kiosque, hein, Wolverine, Spider-Man et. Bon, alors non, le Dark Reign, prenez-le, mais juste pour Secret Warriors.
Allez, payer 4,60 pour un épisode.
Bah ouais, mais en même temps, bon, c'est le prix quasiment du magazine en VO.
Ouais, il a 2,99 en Secret
Non, mais
Warriors.
il y a les Dark Avengers, mais les Dark Avengers, si tu veux, n'apportent rien de plus, quoi. On l'aurait fait si vraiment l'épisode apportait quelque chose, et ça n'apporte rien. En fait, c'est juste un truc avant Siege, voilà. Encore une fois, comme tu dis, tout le monde a dû clôturer ses intrigues pour faire table rase et se lancer à corps perdu dans Siege. Bien, on se retrouve.
D'ici une quinzaine de jours pour la deuxième partie des sorties VF du mois, donc avec de la librairie, il y aura Scalps,
Pour une
aussi en
incursion
espérant qu'ils soient sortis.
supplémentaire, oui, pour une incursion dans la supplémentaire dans la folie furieuse, qui est caractérisant.
On aura aussi Chou, ou en tout cas la version française Tony Chou, détective cannibale de chez
Ouais,
Delcourt.
voilà. La fameuse traduction française, on en reparlera la semaine prochaine, dans 2 semaines. Et puis, oui, enfin, j'allais dire, ils auraient pu traduire ça par tchou-tchou en français ou je ne sais quoi. Voilà.
Voilà, pour terminer sur une bonne nouvelle vanne et puis d'autres choses du DC et il y aura aussi un peu de Marvel je crois. J'ai pas le planning aussi, il y aura le Punisher noir aussi, enfin il y aura pas mal de petites choses. Voilà. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur le site bien évidemment. Vous pouvez nous laisser les commentaires pour réagir à ce que l'on a dit. Nous donner vos avis sur les parutions aussi. On aime bien savoir ce que vous aussi vous avez pensé de ce dont on a parlé et de ce dont on n'a pas parlé, bien sûr. Tous les épisodes, vous pouvez les retrouver sur iTunes. Vous pouvez nous envoyer des mails pour nous poser n'importe quelle question, en fait. En rapport avec les comics, c'est mieux.
Oui.
Mais même si ça n'a pas rapport avec les comics,
Oui.
soyons fous.
Si c'est pour savoir combien je chausse, par exemple, c'est pas forcément super utile. Mais si vous voulez vraiment le savoir, vous pouvez laisser des commentaires aussi, enfin des messages vocaux sur le répondeur.
Voilà, donc soit par mail podcast@comiccity.fr, soit sur le répondeur de Comic City au 09 70 440 497.
Ou plus simple encore.
Ou plus simple, vous téléchargez Skype si vous ne l'avez pas, vous installez bien évidemment, et vous ajoutez Comic City dans vos amis, et vous pouvez laisser un message vocal. Bien sûr, faut avoir un micro pour ça.
Voilà, faut avoir un micro, c'est vrai, mais Skype, c'est un programme gratuit et c'est super pratique.
Oui, c'est d'ailleurs par ça qu'on enregistre nos podcasts.
Voilà, si vous ne le saviez pas, ben voilà, le mythe tombe, le mythe s'écroule. J'ai jamais vu Steve, au fait, mais Steve, je suis persuadé, de toute façon, est un vieillard de 60, oui, enfin non, enfin, 60, on n'est pas un vieillard, il doit avoir l'âge du
quatre-vingt-sept
Père
ans, monsieur. J'ai
Oui.
487.
Oui, bah le c'est le Père Foura, c'est le fils spirituel du Père Foura.
Donc voilà. Sur ce, eh bien, pas grand-chose de plus, hein. Pas de mail cette semaine, enfin cette quinzaine.
Non.
Voilà. Donc n'hésitez pas à nous laisser soit un com, soit un mail, soit un message vocal. Ça nous ferait plaisir de vous entendre et de vous diffuser dans l'émission. Et donc on répondra à toutes questions que vous nous poserez, ou presque.
Oui, dans la mesure du raisonnable.
Voilà. Bah, et puis dans la mesure de nos connaissances aussi, bien
Oui,
évidemment.
aussi, oui, sûr.
Donc c'est tout, on se retrouve d'ici 15 jours pour la fin du mois de septembre en VF et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Allez, ciao à tous, à la prochaine!